18h-20h,
votre grand journal du soir,
Nathalie Lévy.
Bienvenue à toutes et à tous, ravie de vous retrouver. C'est vendredi, 2h d'infos, nous sommes là au rendez-vous, 2h d'analyse, 2h de débat, c'est sur Europe 1, votre grand journal du soir. C'est un week-end qui va faire du bien pour des milliers d'usagers confrontés depuis 9 jours maintenant à la grève, 9 jours de galère, des interrogations dans toutes les têtes, pourra-t-on se déplacer pour Noël, les prévisions de trafic. C'est dans un instant dans votre journal, Isabelle Millet, bonsoir à vous,
bienvenue. Bonsoir Nathalie, bonsoir à tous.
9 jours de grève donc déjà et un impact lourd sur le tourisme, le commerce et sur les réservations d'hôtels. On va faire le point complet avec mon invité à 18h20, Didier Chenet est le président du syndicat des hôteliers. 18h30, le débat des grandes voix dans ce studio. Comment sort-on de cette crise? 19h30, on parle de Noël un petit peu quand même. Bah oui, est-ce qu'on va consommer différemment hein, Noël 2019 en mode déconsommation? On en parle avec vous au 39-21, c'est votre grand journal du soir. C'est parti jusqu'à 20h.
Vous écoutez Europe 1, il est 18h.
Ça monte, ils ont mis des sacs de sable là en plein dedans de la digue, mais enfin, ça ne va rien arrêter du tout.
Le sud-ouest sous les eaux, balayé par des vents violents, menacé par des crues, déjà une victime et une vigilance rouge dans les Pyrénées-Atlantiques, 170 000 foyers privés d'électricité.
Pas d'amélioration à la SNCF ce week-end, trafic encore extrêmement perturbé.
Mais pour ceux qui prévoient de partir pour Noël, ils seront fixés dès mardi. La SNCF promet en effet d'indiquer avec certitude les trains maintenus et ceux annulés. Francine, qui doit accueillir toute sa famille, est très inquiète.
J'espère toujours que ça va s'arrêter, qu'il y aura une trêve pour ces quelques jours que tout le monde attend et pour faire des réunions de famille.
Qui a dit que les nouveaux radars Tourelle étaient indestructibles?
Comme les anciens, ils sont régulièrement victimes d'actes de vandalisme.
Les Algériens ont élu un président, mais ils n'en veulent pas. Ils dénoncent un scrutin truqué, remporté par un ancien ministre d'Abdelaziz Bouteflika.
Tebboune ne sera jamais la solution. C'est un président faible qui n'a pas de légitimité. S'il faut tenir 10 ans, il tiendra 10 ans.
La réélection de Boris Johnson, qui acte la sortie de la Grande-Bretagne de l'Union européenne. Les partenaires européens sont enfin fixés et ils sont pressés d'en finir.
Et puis la fin de la COP25 à Madrid. Les jeunes n'ont pas obtenu du tout le signal d'espoir qu'ils attendaient.
La bourse de Paris a terminé ce soir en hausse de 0,59% à 5 919 points.
Et on regarde du côté du ciel avec Vanessa, bonsoir.
Bonsoir Nathalie, bonsoir à tous. Isabelle le disait à l'instant, de nombreux départements sont placés en vigilance. Crues, inondations, vent fort et avalanches. Je vous donne tous les détails à la fin du journal.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Nathalie Lévy, Isabelle Millet.
Et on commence donc par ces intempéries violentes. Dans le sud-ouest, elles ont fait une victime dans les Pyrénées-Atlantiques et la situation reste très préoccupante dans plusieurs départements, notamment dans la ville de Peyrorade. C'est dans les Landes où le Gave déborde. Le Gave, c'est une rivière qui a déjà fait des siennes récemment. Ronan Coquelin vient de joindre sur place Yann. Il est commerçant, très inquiet pour les heures à venir.
On a les pompiers là qui sont passés au magasin en disant prévoyez vraiment de rentrer chez vous rapidement parce que ça monte. Ils ont mis des sacs de sable là en plein dedans de la digue. Donc ça va rien arrêter du tout, vu la forte marée qu'ils annoncent. Ils ont bloqué la route, donc on peut plus reprendre l'autoroute. On a plein de clients là qui passent en me disant moi j'ai les pieds dans l'eau. Et il y a un magasin juste à côté de chez nous à Bidache où il y a les employés qui sont bloqués dans le magasin, qui ne peuvent pas rentrer chez eux parce que l'eau est montée et ils sont submergés.
Yann, commerçant à Peyrorade, joint à l'instant pour Europe 1 par Ronan Coquelin.
Sandrine Prioul, bonsoir.
Bonsoir.
On le disait, c'est tout le sud-ouest qui est concerné, en particulier le département des Pyrénées-Atlantiques.
Oui, vous l'avez entendu, les habitants de cette petite commune des Landes qui jouxte justement les Pyrénées-Atlantiques sont actuellement évacués en urgence, 600 personnes, parce que la crue s'annonce rapide et hors norme, pouvant aller jusqu'à 5,50 m. Les pluies qui s'abattent encore sur toute la façade du sud-ouest et les vents violents menacent une douzaine d'autres communes. On craint particulièrement la crue du Gave, entre 6h et 8h demain matin. Des bourrasques qui sont déjà allées aujourd'hui jusqu'à 147 km/h et qui ont provoqué la mort d'un homme de 70 ans. Il était dans sa voiture sur une route du Pays Basque lorsqu'il a percuté un arbre tombé sur la route. Il y a aussi déjà 5 personnes blessées à cause de ces chutes d'arbres. Des vigilances rouges et oranges, vous le disiez, qui incitent les autorités à recommander la plus grande prudence ce soir, à éviter absolument de sortir. Plusieurs préfectures sont actuellement en train de faire le point pour activer les cellules de crise, ouvrir d'éventuels gymnases pour accueillir les sinistrés. À l'heure actuelle, 70 000 foyers sont toujours privés d'électricité.
Merci pour ces précisions, Sandrine Prioul.
Et on vous tient au courant, évidemment, minute par minute avec Anissa qui garde un œil sur ses cartes météo. Et comme chaque soir, depuis maintenant 9 jours, c'est l'autre titre à la une. On fait le point, une fois encore, sur les perturbations liées à la contestation contre la réforme des retraites.
Et oui, Emmanuel Macron, qui jusqu'à présent s'était refusé à tout commentaire, a parlé cet après-midi de réforme historique pour le pays. Il a assuré que son ambition n'était pas avant tout budgétaire.
Et c'est une réforme de refondation, avant toute chose, de transformation de notre système et qui va donner sa pleine forme dans le temps, a dit le président depuis Bruxelles.
Un peu sur les conséquences de cette grève, Emmanuel Macron a adressé un bref message aux Français qui galèrent.
Justement, la question que nous nous posons tous les jours, c'est combien de temps ça va durer ?
Alors, on n'a pas de boule de cristal, mais on a Emmanuel Dutheil, chef du service économie d'Europe 1. Bonsoir Emmanuel.
Des fois, il vaut mieux la boule de cristal, vous savez.
En tout cas, sans surprise, le trafic sera encore très perturbé demain et après-demain, samedi et dimanche, avec en moyenne un TGV sur 4, un Transilien sur 6, tandis que 3 liaisons TER sur 10 seront assurées, essentiellement par autocar. Le trafic international également perturbé tout le week-end. De côté intercité, il est prévu un train sur 5 samedi, puis un train sur 10 seulement dimanche.
Mais la nouveauté, Emmanuel, c'est qu'on en sait un peu plus, normalement, sur les fameux congés de fin d'année.
Oui, on a pu vous le révéler cet après-midi. Un mardi, vous saurez si votre TGV, votre Ouigo ou votre train intercité roulera le premier week-end de Noël. Ça concerne donc tous les trains du vendredi 20, du samedi 21 et du dimanche 22 décembre. La SNCF s'engage à contacter donc tous ses clients mardi. Comment ? Vous recevrez soit un SMS pour vous dire si votre train roule ou un mail. Si votre train roule, vous êtes certain de le prendre. Ce sont des trains garantis. Si ce n'est pas le cas, vous aurez des propositions d'autres horaires sur d'autres trains. Si malheureusement votre train devait être annulé, soyons très clairs, il y en aura énormément, vous serez remboursé totalement du prix du billet. Ça peut paraître être un minimum, mais ce plan de transport demande un travail titanesque aux équipes de la SNCF. On regarde axe par axe, c'est un véritable travail d'orfèvre, dit un cadre. Notre objectif, c'est de faire rouler le plus de trains possible, ajoute un autre qui reconnaît que ça ne va pas être simple, notamment sur l'axe Atlantique et notamment sur le Paris-Bordeaux. Jusque-là, on était confiant, mais avec l'appel de la CGT à maintenir la pression, ça pourrait se tendre, reconnaît un autre cadre de l'entreprise. En ce premier week-end de vacances, la priorité va être donnée au TGV. Pour ceux qui ont des billets pour le réveillon de Noël, c'est-à-dire cette fois du 23 au 26 décembre. L'information sera disponible jeudi prochain, c'est-à-dire le jeudi 19 décembre.
On va patienter encore un peu. Merci Emmanuel Dutheil, chef du service économie d'Europe 1. Il y en a en tout cas qui sont particulièrement inquiets à l'idée d'être privés de leurs proches pour ces fêtes de fin d'année. Ce sont les personnes âgées, bien sûr. Noël est toujours un moment très attendu. Francine, par exemple, elle a 84 ans. Elle a tout préparé, mais elle ne sait pas, la pauvre, si sa famille va pouvoir la rejoindre à Paris comme prévu.
J'attends, j'espère. J'ai des enfants qui doivent venir de Nantes. Dans quelles conditions, je ne sais pas. J'ai fait venir du foie gras. Et avant de commander mon saumon, j'attends de voir ce que ça donne. J'espère toujours que ça va s'arrêter, qu'il y aura un peu de raison, qu'il y aura une trêve pour ces quelques jours que tout le monde attend et tout le monde espère pour faire des réunions de famille. Parce que si je suis obligée d'annuler mon repas, où on sera quand même 11, ce sera très ennuyeux.
Francine rencontrée cet après-midi à Paris par Caroline Baudry. Et pour en revenir à ceux qui galèrent faute de transport en commun, ce matin sur Europe 1, la patronne de la RATP a promis que les usagers seraient indemnisés. La RATP qui annonce ce soir encore de grosses perturbations avec à Paris 9 lignes de métro fermées demain et un trafic extrêmement réduit pour dimanche.
Et du côté des enseignants maintenant, comment ça se passe ? Plusieurs syndicats ont été reçus aujourd'hui par le ministre de l'Éducation.
Oui, l'UNSA, le deuxième syndicat du primaire notamment, qui est ressorti de cette rencontre avec la satisfaction d'avoir été entendu. C'était une réunion dense et franche, comme nous aurions dû en avoir depuis des mois, dit son secrétaire général, avec des enjeux précis posés sur la table, mais il nous manque encore des précisions. Et nous maintenons notre appel à la mobilisation mardi. En ce moment, Jean-Michel Blanquer est avec Édouard Philippe à Nancy à la rencontre justement des enseignants.
On suivra ça évidemment, on vous donnera le résultat à 18h30. On sera sur place dans le journal de 19h précisément avec Charlotte Bachelet.
Et par ailleurs, la production et l'approvisionnement en carburant restent assurés normalement, c'est ce qu'affirme le gouvernement, alors que 4 des 8 raffineries de métropole sont touchées par la grève.
Il est 18h08 sur Europe 1, la suite du journal Nathalie Lévy, Isabelle Millet.
Un homme qui menaçait des policiers avec un couteau a été tué ce matin par des fonctionnaires de police sur le parvis de la Défense, près de Paris. Il s'agirait, selon les informations d'Europe 1, d'un Marocain de 42 ans qui se serait échappé d'un hôpital psychiatrique. À ce stade, le parquet antiterroriste ne s'est pas saisi de l'enquête.
Mais on les disait indestructibles, et ben c'est raté. Un nouveau radar tourelle, nouvelle génération, détruit en Ardèche quelques heures seulement après son installation.
Bonsoir Aude Leroy.
Bonsoir.
Et visiblement, ils sont tout aussi facilement vandalisables, ces nouveaux radars, que les anciens.
Oui, c'est une véritable hécatombe qui touche toute la France, même en Guadeloupe la nuit dernière. Alors les radars tourelles sont perchés sur un mât d'environ 3 mètres de haut, fixés au sol par un support qui est coulé dans du béton. Sauf qu'on s'aperçoit à l'usage que l'épaisseur du mât, le métal, est trop fin et que donc le mât est facilement découpable avec une scie à métro, Il peut même plier sous les coups d'un véhicule, oui. voire même carrément arraché au béton, comme ça a été le cas récemment dans le Var. Alors, la tête du radar tourelle est quant à elle entourée d'une coque en plastique. C'est ce qu'explique le blog Radar Auto, qui est très bien renseigné. Donc, si vous déposez au pied du mât un pneu en feu, il fait fondre cette coque, l'enflamme. La chaleur, elle, finit par tordre le mât, qui au bout d'un moment cède et fait tomber à terre la cabine. On l'a vu en Charente-Maritime ou dans le Morbihan notamment. Alors, c'est pas terminé. Les vitres des radars tourelles, elles, ne résistent ni aux balles ni au plomb. Plusieurs cabines ont été retrouvées, la porte grande ouverte. Donc, c'est une porte trop vulnérable. Alors, je vous rappelle quand même que le prix d'un radar tourelle tourne autour de 32 000 euros pièce. La facture des dégradations du matériel uniquement tourne autour de 80 millions d'euros, en tout cas pour le moment.
Et donc, ça n'avait pas été testé en amont. Voilà.
Pas du tout indestructible.
Voilà le résultat.
Merci, Audeloroy. Europe 1. Votre grand journal du soir, Isabelle Millet, Nathalie Lévy.
À suivre dans votre journal de 18h, ça commence mal hein, pour le nouveau président algérien, à peine élu, déjà contesté dans la rue.
Et puis la réélection de Boris Johnson, plutôt bien accueillie par ses partenaires européens, pressée d'avancer.
Votre grand journal du soir, c'est tous les jours, jusqu'à 20h sur Europe 1. Europe 1. 18h11 sur Europe 1, la suite du journal avec Nathalie Lévy, Isabelle Millet.
Le lendemain de vote en Algérie, à peine élu, le nouveau président désavoué par la rue. Hein.
Abdelmadjid Tebboune, qui est un ancien premier ministre d'Abdelaziz Bouteflika, tout ce dont ne voulaient pas les Algériens qui dénoncent un vote truqué.
Quelques heures donc après l'annonce de son élection, une marée humaine véritablement a manifesté cet après-midi dans les rues de la capitale. Alger, Jean-Jacques Herry, bonsoir, vous êtes l'envoyé spécial d'Europe 1.
Oui Isabelle, hein, les ruelles et les escaliers du centre-ville sont noirs de monde. Il est difficile de se frayer un chemin au milieu d'une foule qui inexorablement, inlassablement, rejette Abdelmadjid Tebboune, ce nouveau président, ancien Premier ministre, qu'elle dit tout simplement ne pas être le sien.
Ça fait 40 ans qu'il est dans le pouvoir. Il a été chef d'ARA, sous-préfet, il a été préfet. Il a été 15 ans ministre. Tebboune ne sera jamais la solution. Parce que c'est un président aujourd'hui, vis-à-vis des Algériens, il n'a pas été élu. C'est un président faible, c'est un président qui n'a pas de légitimité. Comment il va réformer s'il n'a pas l'adhésion du peuple? Comment il va faire? S'il faut tenir 10 ans, il tiendra 10 ans.
Sous les hélicoptères qui survolent la ville, la rue gronde, la rue Oni, les militaires, les généraux à la poubelle chantent-elles à tue-tête. Partout, on voit des forces de l'ordre anti-émeute, des policiers en civil sur les trottoirs. Mais ce qu'il faut noter aussi, c'est que dans cette manifestation pacifique, presque sans aucun trouble pour le moment, on décèle aussi beaucoup de joie avec des sourires sous les drapeaux algériens qu'on brandit fièrement. Les gens ont l'impression de vivre un moment historique.
Les gens se libèrent vraiment de tout ce qu'ils avaient en eux. C'est le moment ou jamais. On n'attend pas de résultats immédiats, il ne faut pas rêver, on n'est pas naïf non plus. Mais je pense que les générations d'après verront les conséquences.
Quelque chose s'est levé, nous disent les manifestants. On n'a plus peur des arrestations, on ne se taira plus. Le dialogue avec le nouveau président, vous l'entendez, s'annonce déjà très compliqué.
Effectivement, Jean-Jacques Herry, envoyé spécial d'Europe 1 à Alger. Lendemain de vote aussi en Grande-Bretagne. Après la victoire écrasante de Boris Johnson aux législatives, les Britanniques s'apprêtent à tourner pour de bon le dos à l'Union européenne fin janvier.
Les marchés ont accueilli d'ailleurs avec euphorie cette victoire, hein, rassurés d'avoir enfin un peu de visibilité. On va y revenir avec Didier François.
Oui, et soulagement aussi hein, du côté des futurs ex-partenaires européens. Isabelle Horry, vous êtes la correspondante d'Europe 1 à Bruxelles. Les Européens sont pressés en fait, de passer à la suite. Hein.
Oui, cela fait des mois qu'ils attendent de la clarté en provenance de Londres. Ils n'en pouvaient plus de vivre au rythme de l'indécision du Parlement britannique. Pour le président Macron, le vote d'hier acte le Brexit une bonne fois pour toutes.
Je veux aussi dire à nos amis et alliés britanniques quelque chose de très simple. Vous avez entériné le choix fait il y a un peu plus de 3 ans par ces élections général. Mais vous ne quittez pas l'Europe. Vous restez à nos côtés et nous restons aux vôtres.
Alors désormais, l'Union européenne réfléchit à sa stratégie pour la suite. Le 31 janvier, le Royaume-Uni deviendra un pays tiers. Et sans doute, dès les jours suivants, une nouvelle négociation va commencer sur ses futures relations avec les 27. La chancelière allemande Angela Merkel avertit déjà.
Pour nous, les pays de l'Union européenne, cela veut dire que nous avons désormais un concurrent à notre porte. Un concurrent qui va vouloir montrer au monde ce dont il est capable. Peut-être que ça pourra nous donner un coup de fouet, nous pousser à être plus rapide.
Les Européens veulent éviter que ce concurrent à leur porte soit déloyal, déloyal sur les normes, sur l'environnement, sur le social. Ils l'ont réaffirmé lors de leur sommet à Bruxelles. Ils seront extrêmement vigilants là-dessus dans les mois qui viennent.
Isabelle Horry, correspondante d'Europe 1 à Bruxelles.
Et après Bruxelles, on file à Madrid, où s'achève ce soir la COP25.
Virginie Salmen, vous êtes en direct. Bonsoir Virginie.
Bonsoir.
La jeunesse en particulier est très déçue. Elle considère que ce grand rendez-vous n'a pas répondu à ses attentes et elle l'a fait savoir tout au long de la semaine et encore aujourd'hui.
Oui, 300 jeunes exaspérés de l'absence de prise de conscience, selon eux, des négociateurs ont manifesté à l'intérieur de la COP. Ça, c'est un incident qui a eu lieu mercredi parce qu'en théorie, il est interdit de manifester ici. Ils ont été évacués mercredi. Certains se sont vus confisquer leur badge d'accès. La colère n'est pas retombée et donc aujourd'hui, un sit-in de plusieurs centaines de jeunes du monde entier a été autorisé. Parmi eux, Fabienne, venue avec la délégation de son université parisienne.
Ce qui est bien, c'est de voir quand même qu'il y a la société civile qui est là, qui veut que ça bouge. Même en fait, les négociateurs nous disent, bah ouais, faut que ça vienne du peuple pour que ça bouge et que ça remonte ensuite, quoi.
Vous dites ça?
Ouais, ouais, ouais. Que c'est pas l'ONU qui prend des décisions, mais déjà c'est les négociateurs, les décisions viennent de leur pays et les décisions des pays, ça vient d'où? Bah de la société civile qui fait pression, quoi.
Mais le décalage n'a jamais été aussi grand entre les citoyens et les négociateurs. Voilà ce que ressentent beaucoup de ces jeunes. Bruno, qui anime des ateliers pour expliquer le changement climatique ici à la COP, a été frappé.
Absolument tous les politiciens qui sont passés par notre atelier, qui sont venus là pour négocier des avancées pour le climat, ne savent pas comment se dérègle le climat.
Donc ils ne sont pas au courant, ils n'ont pas lu les rapports des scientifiques.
C'est ça, ils sont au courant de ce qu'ils ont à défendre, mais pas pour quels enjeux. Et on a trouvé ça vraiment triste. Je pense que c'est ça aussi qui nous déçoit.
Voilà, cette pression ne semble toujours pas toucher les négociateurs qui ont les pires difficultés à se mettre d'accord sur le texte final de cette COP.
Merci beaucoup Virginie Salmen, envoyée spéciale d'Europe 1 à Madrid.
Isabelle Millet de retour avec de nouvelles infos à 18h30, merci.
N'adaptez plus vos pneus aux conditions climatiques, ce sont vos pneus 4 saisons Hankook qui s'adaptent à la route. Hankook vous présente la météo.
Anissa, on est très vigilants ce soir, vous surveillez particulièrement la situation dans le sud-ouest.
Oui, effectivement, il pleut fort dans le sud-ouest actuellement. Sur les radars, les villes de Brive-la-Gaillarde, Aurillac, Pau, Lourdes, Périgueux, Limoges, Toulouse, Perpignan, Carcassonne, Montpellier, ces villes sont touchées par des pluies assez importantes là ce soir et ces pluies elles vont se décaler vers l'est au fil des heures.
Alors plusieurs départements vigilants ce soir.
Oui, effectivement, vigilance rouge pour les Pyrénées, Atlantique, vigilance crue, pluie et inondation, vigilance orange, pluie, inondation et crue pour 7 départements du sud-ouest, vigilance orange aux avalanches pour l'Isère, la Savoie et la Haute-Savoie, soyez très prudents, et puis vigilance orange au vent fort pour les deux départements de Corse. Effectivement, le vent souffle à plus de 100 km/h actuellement sur le Cap Corse. Alors demain, un mot rapide de la situation. Demain, c'est un temps encore très agité et très perturbé sur quasiment toute la France. Il y aura seulement le bassin méditerranéen qui sera au sec demain.
Europe 1.
Votre grand journal du soir, Nathalie Lévy, avec dans un instant votre invité.
Oui, 9 jours de grève et une addition déjà salée, très salée pour le tourisme, les commerçants. On en parle avec mon invité dans ce studio dans 2 minutes, Didier Chesnay, le président du syndicat des hôteliers.
Votre grand journal du soir avec Nathalie Lévy, c'est tous les jours jusqu'à 20h sur Europe 1. La suite de votre grand journal du soir sur Europe 1, 9 jours de grève et des conséquences lourdes sur le tourisme, sur le commerce et les hôtels-restaurants. À la veille de cet avant-dernier week-end avant Noël, vous recevez ce soir Nathalie Didier Chesnay. Il est le président du groupement des indépendants de l'hôtellerie et de la restauration.
Bonsoir Didier Chesnay.
Bonsoir.
Bienvenue dans ce studio, merci d'être arrivé jusqu'à nous.
Merci.
Le week-end commence, ou presque, hein. Après 9 jours de grève, si je dis que les professionnels du tourisme accusent le coup, je suis en dessous de la réalité.
Oui, vous êtes en dessous de la réalité et vous avez une situation qui est extrêmement critique dans les principales capitales régionales. On peut prendre Lyon, Bordeaux, Nantes, Rennes, donc avec des baisses significatives d'activité. Et puis malheureusement sur Paris se cristallise cette chute, mais vraiment très impressionnante de l'activité.
Distinguons si vous le voulez bien Paris-Île-de-France, oui. Et effectivement ces grandes capitales que vous avez citées. Comment c'est en termes de chiffres dans ces villes, Bordeaux, Lyon et j'en passe? Parce qu'à Marseille par exemple, on nous disait qu'on était très peu impactés.
Oui,
on
ils sont moins bien. Impactés, voilà. Mais par contre Lyon ou Nantes et Rennes aujourd'hui, qui sont des villes qui sont impactées, vous avez une baisse de l'ordre de 20% à peu près sur ces villes-là.
20% sur voilà. Ces grandes agglomérations-là voilà. Et Paris-Île-de-France, on est à combien alors,
si vous prenez l'hôtellerie, vous avez une baisse de fréquentation de l'ordre de 30%, un doublement des annulations. Et pour ce qui concerne la restauration, on en est maintenant à un peu plus de moins 50% d'activité. Et je
moins
vous dis, c'est une
dans
moyenne.
La restauration.
C'est une moyenne. Ça veut dire que vous avez des restaurants qui arrivent à sauver les meubles, je dirais, à moins 25%, moins 30%, et puis d'autres qui font 20% simplement du chiffre d'affaires habituel.
Alors, on sait aujourd'hui que mardi, on sera fixé à peu près sur les trains qui circuleront, la RATP, enfin... Est-ce que du coup, ça vous rassure? C'est de nature à vous rassurer?
Écoutez, non, parce qu'aujourd'hui, on est tous dans une expectative de savoir véritablement ce qui va se passer. Pour l'instant, les réservations de Noël et du jour de l'an tiennent encore. Mais justement, ce que nous attendons avec une très grande inquiétude, c'est ce qui va se passer la semaine prochaine. Parce que c'est là que les décisions vont se prendre d'annulation ou de maintien. Et je voudrais quand même rajouter une chose, c'est que là, par rapport à l'année dernière, on a vécu déjà une année difficile avec les Gilets jaunes. Mais les Gilets jaunes, c'était le week-end.
Et oui,
le lundi,
là, c'est toute la semaine.
La vie reprenait.
Et oui, oui.
Là, c'est 9 jours d'arrêt sans discontinuer. Donc vous avez aujourd'hui, il faut savoir que 70% du trafic SNCF, c'est le directeur de SNCF qui nous le disait, se passe en Île-de-France. 70%. Donc évidemment, l'incidence est énorme sur l'activité de Paris-Île-de-France.
Alors comment ça se passe? Parce que la période de Noël, elle est essentielle, j'imagine, pour l'activité
C'est 20% de notre activité. 20% de notre activité, et c'est surtout une période... Mais non, parce que le problème, c'est que voilà, nous ne sommes pas un commerce de report. Nous, un repas qui n'est pas pris, c'est fini, il est perdu. Une chambre qui n'est pas louée, c'est perdu. Un événement, parce que je voudrais rappeler aussi que vous avez aussi des traiteurs, organisateurs de réception, qui sont frappés par le nombre d'annulations, tout simplement parce que le personnel ne peut pas venir, enfin le personnel des entreprises, ou les entreprises décident d'annuler. Donc, nous, c'est ça, et nous sommes, c'est un mois traditionnellement où nous refaisons notre trésorerie. Et là, au contraire, nous sommes en train de vider la trésorerie que nous préparons d'habitude pour le début
de
l'année.
Qui paye le plus cher aujourd'hui? Les hôtels de quelle catégorie? Quel type de restaurateur?
Plutôt les hôtels de milieu de gamme et le luxe qui est frappé. Le luxe est frappé.
Pourtant, c'est plutôt les touristes étrangers.
Oui, mais si vous voulez, le luxe est frappé parce qu'actuellement, le luxe, notamment à la montagne, commence à enregistrer des annulations.
Déjà.
Et d'habitude, ils avaient, avant Noël, quelques bons week-ends, qui aujourd'hui deviennent difficiles. Donc c'est plutôt cette catégorie qui est frappée.
Qu'est-ce que vous dites aujourd'hui au gouvernement? Parce que normalement, ils ont réactivé depuis la semaine dernière les mesures qui avaient été mises en place pour les Gilets jaunes, justement, différer les paiements de certaines charges fiscales, les charges sociales, etc. Ça vous donne un peu de souffle? Vous allez formuler une autre demande?
Nous avons formulé une autre demande, parce que ça ne suffira pas.
Ça suffira
Et
pas.
Notamment une demande
Si ça
pour...
s'arrête demain, ça suffira pas. Si
non.
Mardi, on nous dit, voilà, on revient à 80% à la normale,
non, ça,
les trains pourront circuler pour les fêtes.
Ça ne suffira pas, il faudra accompagner pour un moratoire certainement et non pas simplement un échelonnement de ce paiement. Et puis nous demandons également pour justement ces traiteurs que la taxe qui vient de nous être imposée au 1er janvier 2020 qui est de 10 euros par contrat d'extra soit reportée au 1er janvier 2021.
Vous avez déjà formulé la demande ?
Je l'ai formulé. D'accord. Le gouvernement écoute les partenaires sociaux. La moindre des choses, c'est qu'il nous écoute, nous, professionnels.
On regarde évidemment aussi du côté des salariés, les extras aussi par exemple. Comment ça se passe? Parce que le personnel, il arrive sur zone, arrive à travailler.
Je dois dire que nous sommes vraiment extraordinairement, je dirais, non pas surpris, mais de voir que les salariés viennent. Nous n'avons aucun mouvement chez nous. Aucun. Ils viennent après 2 heures de transport, 2 heures et demie. Nous essayons de les accompagner au maximum.
Les loger, par exemple, dans des hôtels?
Nous en logeons un certain nombre.
Vous allez pouvoir tenir combien de temps comme ça, à loger les employés?
C'est pourquoi je vous disais, on ne pourra pas tenir comme cela. On les loge. On leur paye aussi, des taxis, du covoiturage. Moi, je tiens à les saluer parce que vraiment, ils font preuve d'un courage absolument extraordinaire.
On parlait des restaurateurs, des traiteurs précisément. Le commerce alimentaire, il peut être sauvé dans les tout derniers jours avant Noël, comme l'année dernière avec les Gilets jaunes? Parce que clairement, les gens, au dernier moment, ils vont quand même avoir la bûche de Noël, etc.
Il ne sera sauvé que si véritablement mardi, on a une levée de ces grèves. Si vous n'avez pas une levée de ces grèves, à partir de mardi, la méfiance va continuer à s'installer. Et vous savez que vendredi, on est le 20. Donc on est à quelques jours de Noël. Donc là, ça va commencer à devenir extrêmement difficile.
Donc vous nous dites mardi, quand même, c'est le point de non-retour.
Mardi, c'est vraiment,
c'est en tout cas la deadline.
Il faut que l'on puisse savoir ce qu'il en est. Sinon, on aura les pires difficultés.
Vous soulignez, pardonnez-moi, le fait que les salariés chez vous, dans ce secteur-là, ne soient pas en grève, etc. Mais vous comprenez quand même ce mouvement, cette mobilisation?
Je pense que dans cette affaire, il y a des erreurs des deux côtés, aussi bien du côté donc, du gouvernement que du côté des organisations de salariés. Et en tous les cas, aujourd'hui, il y a un dialogue qu'il faut renouer. Et effectivement, c'est tout ce qui nous inquiète. C'est de voir que maintenant, il y a des positions qui sont des positions extrêmement fermées et qui ne sont plus des positions de négociation. C'est ce que j'ai eu l'occasion de dire à une représentante de la CGT. Ce ne sont plus des positions de négociation. On ne vient pas à une négociation en disant « c'est fini, vous arrêtez et puis on négocie ». Je crois qu'il faut que chacun accepte de faire un pas.
Merci beaucoup Didier Chesnais d'être venu ce soir. Vous nous l'avez rappelé mardi, hein, dernière mardi. Limite pour sauver le secteur du tourisme, les commerces, les restaurateurs, les traiteurs avant donc les fêtes de Noël. Merci à vous.
Merci beaucoup.
Europe 1.
Votre grand journal du soir à suivre, Nathalie Lévy.
La suite dans un instant, c'est avec Le Point, les infos. Isabelle Millet qui nous rejoint dans ce studio. Et puis les grandes voix. Comment on sort de cette crise? On leur pose la question.
Et vous pouvez vous aussi interpeller les grandes voix en direct. Ça se passe au 39-21. Pour réagir, c'est le standard d'Europe 1. Votre grand journal du soir jusqu'à 20h. Il est 18h30 sur Europe 1, votre grand journal du soir, Nathalie Lévy.
Les grandes voies sont installées, mais d'abord l'info avec vous Isabelle Millet.
Et le trafic restera très perturbé à la SNCF ce week-end, avec samedi et dimanche en moyenne un TGV sur 4, un Transilien sur 6, 3 liaisons TER sur 10. Le trafic international également perturbé. Côté intercité, il est prévu un train sur 5 samedi, puis un train sur 10 seulement dimanche. Précision importante, si vous avez un billet pour le premier week-end de Noël, vous saurez mardi prochain si votre train est maintenu. Le cas échéant, la SNCF vous dédommagera. Le pass Navigo pour les usagers des transports d'Île-de-France sera, lui, partiellement remboursé, annonce ce matin sur Europe 1 de la patronne de la RATP. En ce moment, à Nancy, Édouard Philippe et Jean-Michel Blanquer rencontrent des enseignants en pointe dans la contestation, même si le climat semble s'être un peu détendu, après un rendez-vous aujourd'hui au ministère de l'Éducation. Les intempéries dans le sud-ouest, un homme de 72 ans est mort dans les Pyrénées-Atlantiques, intempéries qui ont fait également 5 blessés, 170 000 foyers toujours privés d'électricité. La rue manifeste en masse à Alger contre le nouveau président, un ancien fidèle d'Abdelaziz Bouteflika. Abdelmadjid Tebboune a été élu dès le premier tour avec 58% des suffrages.
Merci beaucoup Isabelle. Retour de l'info avec vous à 19h et on va regarder du côté du ciel comment ça se passe avec de nombreux départements. Anissa en vigilance ce soir.
Oui, effectivement, Isabelle vient de le dire, vigilance rouge pour les Pyrénées-Atlantiques, vigilance pluie, inondation. Soyez vraiment prudents dans ce secteur. Il y a même des communes qui sont en train d'être évacuées dans les Pyrénées-Atlantiques. Vigilance orange pluie, inondation et crue dans 7 départements du sud-ouest. Vigilance orange aux avalanches, cette fois-ci pour l'Isère, la Savoie et la Haute-Savoie, parce qu'il y a eu des chutes de neige et en même temps ces pluies fortes, voilà, qui créent ces avalanches donc. Et puis vigilance orange au vent fort pour les 2 départements de Corse. Effectivement, le vent souffle à plus de 100 km/h, c'est le vent d'ouest qui souffle. Et bien demain, ça continue, vent d'ouest très fort sur toute la France, même dans les terres. Alors demain, pour vous résumer la situation rapidement, il pleut et il fait gris sur toute la France, sauf au bord de la Méditerranée.
Europe 1.
À suivre dans votre grand journal du soir, le débat des grandes voix avec ce soir autour de vous Nathalie Lévy, Marie-Ève Malouin, Mickaël Darmon et Philippe Gouillon.
Et on se retrouve, bonsoir d'abord les grandes voix, on se retrouve dans un petit instant. On veut savoir comment on va sortir de tout ça. On n'a pas la réponse, mais on va essayer d'avoir des éléments de réponse avec vous dans une seconde.
Et vous pouvez interpeller les grandes voix, n'hésitez pas, ça se passe au 39-21, le standard d'Europe 1, votre grand journal du soir jusqu'à 20h. Europe 1. Votre grand journal du soir sur Europe 1 avec, comme chaque jour, jusqu'à 19h, le débat des grandes voix. Ce soir, autour de vous, Nathalie Lévy, Marie-Ève Malouin, Mickaël Darmon et Philippe Gouillot.
Merci à vous les grandes voix d'être ici. Bonsoir à vous, bienvenue. Une demi-heure à passer ensemble pour essayer de comprendre où on va là dans les prochains jours sur cette réforme des retraites. Est-ce qu'on va s'en sortir? L'exécutif en tout cas s'est montré déterminé aujourd'hui à poursuivre. Écoutons Emmanuel Macron, si vous le voulez bien, depuis Bruxelles.
Cette réforme, c'est une réforme de refondation avant toute chose. C'est une réforme de transformation de notre système et qui va donner, je dirais, sa pleine force dans le temps. Elle n'est donc pas, je dirais avant toute chose, budgétaire. Nous faisons cette transformation, cette refondation, parce que je pense que c'est essentiel pour notre pays. Je pense qu'elle poursuit un travail, quand on regardera les choses avec recul, historique, mené depuis plus de 2 ans et demi par le gouvernement en termes de transformation du pays. Et donc, voilà, tout ça, je crois, rend plus fort notre pays dans la durée. Et je crois que c'est un élément qui redonne de la crédibilité.
Emmanuel Macron depuis Bruxelles au micro d'Adrien Beck pour Europe 1. Il n'avait pas été très prolixe, hein, le président, voire quasiment absent. Hein, quand à Bruxelles, on lui a déjà posé la question hier. Cette fois, il a pris la parole brièvement. Il était effectivement resté très discret. Comment, là, on interprète cette détermination alors que Édouard Philippe négocie au cas par cas dans le même temps?
Il montre qu'il est toujours près du ballon, comme disent des gens dans le gouvernement. Et donc, il suit ça de près et il redonne le sens que cette réforme a pour lui, qui est une grande réforme de société et pas un marchandage sur des petits points. C'est une réforme importante. Et le côté technique, les détails, les trucs très compliqués, c'est pour Édouard Philippe. Donc, on a quand même une bonne distinction entre le président de la République qui fixe le cap, qui donne les grands dessins, et puis le Premier ministre qui est dans l'exécution. Et donc, Emmanuel Macron prend sa distance de président.
Ça y est, Force ouvrière Yves Verrier a réagi. Le président a tendance à faire l'histoire avant qu'elle ne soit déroulée. Moi, je pense qu'il faut éviter une erreur historique. Le fait que le président, comme ça, se mêle, mais de manière comme ça, très épisodique, très ponctuelle du dossier, ça ne va pas calmer. Ça ne va pas calmer les esprits, si ?
Non, ça ne va sans doute pas calmer. Cela dit, je trouve que son ton est assez modeste, presque. Enfin, il n'est pas du tout flamboyant comme d'habitude. Là, il n'y a aucune arrogance dans ses propos. Et puis, encore une fois, c'est quand même vers lui que les gens se tournent, que les Français... c'est de lui que les Français attendent un geste, une inflexion, une décision. Édouard Philippe pourra dire et faire tout ce qu'il veut si on a le sentiment que Emmanuel Macron est opposé à ce que propose, puisque c'était le terme d'Emmanuel Macron hier, ce que propose son Premier ministre, ça ne marchera pas. Les Français se tournent toujours vers lui, comme au moment des Gilets jaunes.
Michel Darmon.
Moi, je pense d'abord il se mêle pas de manière épisodique. Vous savez, le pays est globalement dirigé par trois personnes. Hein. Emmanuel Macron, M. Ribadeau-Dumas, directeur de cabinet de Matignon, et Alexis Kohler, secrétaire général de l'Élysée.
On peut bien imaginer,
bien évidemment. Enfin, franchement, tous les arbitrages sont faits là.
Oui, bien sûr.
Avec Édouard
Philippe. Avec Édouard Philippe.
En tout cas, il intervient. Vous avez raison. Il intervient.
Franchement, tel qu'on le connaît, évidemment, il y a un texto tous les 30 secondes là où il est, à Bruxelles, pour savoir comment ça se passe et les retours qu'il fait. Donc, ce qui est étonnant, c'est qu'hier, il arrive à Bruxelles en disant je ne parlerai pas.
Exactement.
Et aujourd'hui, il donne. Comme d'habitude, il commente toujours la politique intérieure à l'étranger, comme d'habitude. En l'occurrence, Bruxelles, ce n'est pas l'étranger. Mais disons. Hors du territoire strictement français. Et là, une fois de plus, il le fait parce qu'il sent qu'il doit aussi décliquer la crispation liée à la mécanique. Or, la mécanique, elle a repris. Les partenaires sociaux actuellement sont en train de travailler sur des mesures pour trouver l'équilibre. Parce que l'enjeu aujourd'hui, à partir de maintenant, il est de trouver un équilibre sur l'âge d'équilibre, je dirais. C'est-à-dire qu'il va falloir trouver ce système-là. Et les partenaires sociaux sont en train d'y travailler, puisque tout le monde a dit, en tout cas du côté des réformistes, avec lequel le gouvernement travaille, on va reprendre et on a repris le chemin du dialogue.
Ouais, et le plus tôt possible, ils sont conviés, les partenaires sociaux, autour d'Edouard Philippe en début de semaine. On s'en parle dans un instant, restez avec nous.
Votre grand journal du soir avec le débat des grandes voix et Nathalie Lévy sur Europe 1. Jusqu'à 20h sur Europe 1, c'est votre grand journal du soir avec le débat des grandes voix autour de vous. Nathalie Lévy ce soir, Marie-Ève Malouine, Michael Darmon et Philippe Gouillot, ancien correspondant pour l'AFP et le Figaro à l'Élysée.
Alors voilà, on va discuter la semaine prochaine, la CFDT, la CFTC, l'UNSA, les syndicats dits réformateurs. Mais il y aura dans la rue du monde, mardi très probablement, nouvelle journée de mobilisation. Comment ça peut se passer? Ça va être des mesures catégorielles. Les policiers, on les a vus, ils sont rentrés dans le rang hier. Là, à l'heure où on parle, c'est à Nancy qu'Edouard Philippe s'adresse aux enseignants avec Jean-Michel Blanquer, le ministre de l'Éducation. On tend vers ça? Allez, Michael Darmon, pour commencer. Allez.
Parce qu'en fait, en parallèle, vous avez aussi la mise en place du système universel.
Absolument.
Donc, de ce point de vue-là, il y a les professions qui attendent et qui peuvent profiter aussi, peut-être, on verra, de la réforme avec la manière d'être revalorisée dans leur traitement. On va voir si les enseignants sortent satisfaits. Sont aussi traités par leur ministre de tutelle. On a vu que les policiers suspendent
En attendant
de recevoir effectivement par écrit les promesses qui ont été faites. Donc pour l'instant, il y a deux processus parallèles. Hein. Vous avez la mise en place du système universel et puis les discussions qui achoppent sur ce fameux H-pivot et la manière de ou pas mettre le système à l'équilibre. Moi, ce qui me frappe également, c'est que Laurent Berger a évolué aussi dans la manière dont il avait était très colère dès l'après-discours d'Edouard Philippe, pour le lendemain commencer à dire « je ne suis pas pour le retrait du projet, il faut négocier, travailler, trouver des manières d'aller sur, sur le sujet économique » et de dire ensuite aujourd'hui « je reprends le chemin du dialogue, on verra si ça va,
aboutir. Si ça va aboutir, Philippe Gouillot. »
C'est pas non plus une position très facile pour Laurent Berger quand même, parce que fondamentalement il est favorable, et la CFDT est favorable à cette réforme, et là il va battre le pavé mardi avec des gens qui la refusent et veulent son retrait définitif. Donc c'est une position dangereuse pour lui, parce qu'il doit, il ne doit pas non plus se couper de sa base. Donc il faut sans doute que mardi il puisse dire, ben voyez, on a manifesté contre le projet dans sa version actuelle, mais on a obtenu des avancées et maintenant on peut effectivement revenir à une position beaucoup moins critique.
Oui, parce que l'UNSA, CFT, je ne sais plus si je l'ai dit, la CFTC et la CFDT seront dans la rue, ces syndicats directeurs seront dans la rue.
Il y a un front uni de tous les syndicats, y compris ceux qu'on n'attend pas forcément, c'est-à-dire la CFDT, mais aussi la CFE-CGC et la CFTC. Donc, il y a beaucoup de monde qui est contre cette réforme, mais c'est vrai que Laurent Berger est celui qui a presque le plus à perdre, parce que c'est le syndicat réformiste qui est devenu premier syndicat devant la CGT, parce que justement, il négocie. Et là, il sait que s'il passe complètement de l'autre côté, la réforme se fera sans lui. Or, c'est ça, la réforme de sa centrale syndicale. Et il y a un jeu où chacun est au pied du mur, en fait, parce que la CGT, elle a perdu des voix dans les élections. Elle est menacée par Sud aussi, dans certains bastions. Donc, son truc, c'est de dire de ne pas céder et de ne pas rentrer dans le jeu. Donc, la CGT, elle ira jusqu'au bout aussi. Et tout va se focaliser sur la SNCF, parce que les autres, les policiers, les pompiers, les aides-soignants dans les hôpitaux, on va trouver quelque chose pour eux. Mais on a bien compris clairement que sur la SNCF, la RATP, le gouvernement ne cédera pas et il est prêt au bras de fer avec la CGT.
Mais est-ce qu'ils peuvent tenir longtemps, Michaël Darmon, à la SNCF, parce que ça coûte cher, une journée de grève? Il y a une cagnotte, on le sait, mais jusqu'où? Elle est peut-être, il y a peut-être un moment où ça va continuer. Ils avaient déjà fait un mois de grève à la SNCF.
S'était mal terminé du point de vue, avec un mauvais souvenir en tout cas, puisqu'ils avaient le sentiment. Et à mon avis, c'est ce qui génère aussi la motivation et la détermination dans ce présent conflit, c'est qu'il y a le souvenir d'une frustration et d'un précédent conflit. On est aussi un an après les Gilets jaunes. Et indubitablement, la base syndicale est influencée aussi par ce qui s'est passé. Donc, il y a des raisons objectives qui expliquent la détermination et qui expliquent également pourquoi ça ne peut pas durer non plus ad vitam aeternam. D'autant plus que sur l'ensemble du pays, il faut aussi le constater, le pays n'est pas bloqué. C'est l'Île-de-France. De par ce qui se passe à la RATP. La SNCF, effectivement, empêche de se déplacer dans l'ensemble du pays, mais le pays n'est pas bloqué. Dans les entreprises privées, il n'y a pas de débrayage. La CFDT n'appelle pas au débrayage dans l'entreprise privée. Et ça, c'est très important. Ça montre à quel point ce syndicat réformiste, effectivement, joue une partie très importante et reste quand même sur le rail, peut-être ténu parfois, de la négociation et de la discussion. Et pour montrer qu'il n'y a pas de volonté de bloquer le pays à l'encontre de la CGT qui essaye d'étendre avec l'énergie, exemple,
le
conflit.
On est moins sûr
que de Noël quand même, parce qu'on est à moins de 15 jours de Noël. Est-ce que la CGT tiendra jusqu'à Noël? Tout l'enjeu étant de dire, c'est pas de notre faute. C'est le gouvernement qui a... Et il y a les commerçants aussi qui sont quand même assez embêtés. Ce sera de dire qui est responsable de ce blocage.
Et là, pour l'instant, il y a des...
Il y a une bataille de communication. Pour l'instant, c'est un peu 50-50. On n'entend pas beaucoup dire...
Il y a des sondages qui disent quand même que pour les gens, c'est le gouvernement. Il y a des sondages qui sont sortis comme ça.
Mais ça reste
et donc,
la
Noël,
bataille du moment.
Et donc à Noël, ça va être compliqué.
Et dans sa majorité, tiens, qu'est-ce qui va se passer à Emmanuel Macron? Parce que dans son propre camp, comment va-t-on se diviser? Est-ce qu'on est en train déjà de se diviser autour de cette réforme des retraites, la manière dont elle est menée, amenée, etc. On en parle dans un instant.
Votre grand journal du soir avec Nathalie Lévy, c'est tous les jours jusqu'à 20h sur Europe 1. La suite de votre grand journal du soir sur Europe 1 avec le débat des grandes voix jusqu'à 19h ce soir. Marie-Ève Malouine, Michaël Darmon et Philippe Gouillot, qui est co-auteur des photos insolites de Charles de Gaulle, paru aux éditions Grundplon.
Et on est avec Jean-Claude. Bonsoir Jean-Claude.
Oui, bonsoir Nathalie, bonsoir aux auditeurs, bonsoir aux grandes voix.
Merci Jean-Claude de vous nous appeler ce soir de Brive. Vous,
absolument.
Vous êtes postier, hein, vous êtes postier syndiqué.
Sud,
voilà. Et qu'est-ce que vous nous dites ce soir, après 9 jours de grève?
Moi, ce que je remarque une chose au niveau de ce problème de retraite, c'est que le président Macron gouverne par la brutalité, en imposant des choses
Il avait prévenu sur cette réforme, Jean-Claude.
Oui, mais pas obligé de tout casser.
C'est-à-dire
c'est ce qui se passe. Quelle que soit la réforme qui se dessine, on casse tout là, avec le président Macron. On n'y va pas dans la douceur.
Donc vous êtes gréviste en ce moment?
Oui.
Et vous allez pouvoir tenir comme ça, durablement? Vous comptez aller jusqu'à Noël?
Oui, je pense, oui.
Oui. Vous en avez la possibilité aussi financièrement? Parce que ça coûte aussi.
Oui, on est organisé.
Vous êtes organisé, c'est ça. C'est la fameuse cagnotte hein, qui permet
absolument.
Aussi. Voilà. Merci,
absolument.
Merci Jean-Claude. On voit cette détermination. Jean-Claude qui nous appelait de Brive ce soir. La détermination à la CGT, là, syndiqué Sud, postier, Jean-Claude. On voit bien que le bras de fer, il est loin d'être terminé. Et Emmanuel Macron, dans tout ça, Emmanuel Macron, il risque aussi peut-être d'entamer un bras de fer avec sa majorité. Philippe Gouillot.
Avec la majorité, peut-être. Pour l'instant, on ne la sent pas très
pour
remontée.
Ouais.
Pour l'instant. Au contraire, on a plutôt l'impression qu'ils sont assez solidaires. Avec, évidemment, sans doute, des états d'âme. Ça, c'est forcé. Mais il y a aussi la bataille avec l'opinion, quand même. Parce qu'on approche de Noël. On l'a dit, les commerçants commencent vraiment à s'inquiéter terriblement parce que beaucoup de magasins sont vides. Les gens n'achètent pas. Ils ont déjà eu des problèmes l'année dernière au moment des Gilets jaunes, notamment à Paris et dans les grandes villes où les magasins étaient cassés souvent et où les gens n'allaient pas faire leurs courses. Donc ça fait une deuxième période de Noël où le chiffre d'affaires risque de baisser. Et puis l'opinion publique, si on nous dit mardi, puisque c'est mardi que la SNCF va faire savoir si
annoncera quels trains vont pouvoir circuler.
Quels trains marcheront, quels trains rouleront pour la fin d'année. Si on nous dit qu'on ne peut pas aller en province ou de province venir à Paris, ça risque quand même de...
De tendre un
de
peu
tendre
plus.
Un
mais,
peu
mais
plus.
Quand même, je reviens à la majorité.
C'est une bataille d'opinion.
Oui, on a parlé de l'opinion, mais la majorité parlementaire, Mickaël Darmon, quand même, elle comptait sur cet acte 2, sur cette jambe gauche.
Oui, effectivement.
Là, avec cette réforme des retraites est faite comme ça.
J'ai fait un peu parlé avec quelques personnes qui sont un peu emblématiques de ce qu'on appelle le pôle gauche de la Macronie, notamment dans ce groupe de députés qui s'appelle le collectif social. Il y a effectivement un émoi, c'est vrai. Mais pour une raison qui nous ramène à ce qu'on disait tout à l'heure, parce qu'ils considèrent que l'urgence est vraiment de réembarquer la CFDT dans la réforme, parce qu'ils considèrent que sans la CFDT, il n'y aura pas d'acceptabilité pour faire vite dans la société et dans la capacité à pouvoir faire installer la réforme. Donc là, c'est plutôt leur inquiétude. Mais force est comme de constater, effectivement, comme dit Philippe, qu'il y a des états d'âme, il y a des émois dans ce périmètre-là de la majorité, mais que globalement, il y a quand même un soutien. Parce que sur les marchés, on dit, plusieurs députés nous ont dit, sur les marchés, dans les circonscriptions, on nous dit, tenez bon. L'ensemble du secteur privé se sent concerné également par cette réforme des retraites et souvent considère qu'il n'y perd pas forcément. Les femmes considèrent qu'il y a un progrès. Les agriculteurs considèrent qu'il y a un progrès.
Il y a deux lectures.
Il faut regarder.
Il y a
bien surtout une lecture globale. La société, avec tout le respect, comme on disait encore hier, ne se résume pas à la SNCF et à la RATP.
Marie-Ève Malouine.
Oui, il faut se souvenir que la réforme du régime par points, ça vient de la gauche, ça venait de Michel Rocard, c'est la CFDT qui n'est pas un syndicat qui est situé plutôt sur la droite de l'échiquier, donc l'aile gauche de la majorité, elle peut se reconnaître là-dedans, et donc c'est pour ça qu'elle est attentive à Laurent Berger et à la CFDT. Elle est un petit peu spectatrice, mais elle a quand même des arguments pour dire cette réforme, elle crée plus de justice sur le plan social. Donc un député, quand il peut aller voir ses électeurs en leur tenant un discours positif, ça soulage toujours énormément. Et de l'autre côté, l'aile droite, elle peut dire aussi, regardez, le gouvernement est ferme, il reste sur l'enjeu financier, et ça, il ne cédera pas auprès de la CFDT, il est ferme sur le financement. Donc les deux jambes peuvent marcher sur deux pieds.
Ce qui est intéressant, c'est que un député me disait cet après-midi, j'ai beaucoup remarqué, alors issu voilà, de ce pôle gauche de la Macronie, j'ai beaucoup remarqué comment Édouard Philippe, dans son discours, a plusieurs fois prononcé le mot solidarité. Et oui, ça, sûr. Effectivement, oui. Ils y sont sensibles. Et ils retrouvent peut-être pour la première fois, et avec un Édouard Philippe avec lequel ils ont eu des relations compliquées. Donc on a une autre mutation qui est peut-être une sorte de retour un peu en grâce, je dirais, d'un Édouard Philippe qui revient et qui est un peu plus écouté par cette aile gauche de la Macronie avec laquelle il était un peu plus en problème depuis le début du mandat.
Avec la référence à
Madas France.
Exactement.
Et ça n'a échappé à personne.
Et puis dans la petite musique. Destiné à cette frange-là de la majorité.
Et avec une petite musique au sein du gouvernement et qui diffuse auprès de la majorité aussi, qui est de dire on n'est pas en rapport de force avec un tel ou un tel. Ah oui, c'est pas l'idée. Il n'y aura pas un vainqueur et des perdants.
Une exorcisme 95. Voilà, c'est ça. Pas dans la confrontation.
Et tous les ministres le relaient aussi. Mais c'est ce qu'il y avait aussi dans le discours d'Édouard Philippe. Il a désigné personne comme l'ennemi ou celui qui n'a rien compris.
Mais c'est gagnant-gagnant. En fait, cette majorité parlementaire plus à gauche qui, de toute évidence, n'est pas pour l'instant tendue. Le socle qu'Emmanuel Macron veut garder ses électeurs de droite qui sont satisfaits par cette réforme.
Mais ça
pour l'instant,
être...
le compte y est presque.
Non, mais c'est-à-dire
si
quand on regarde
pas...
avec recul ce que d'ailleurs vous nous donnez la possibilité de faire, donc c'est plutôt merci, c'est plutôt intéressant de prendre le temps et de regarder, de sortir au fond de ce qui se passe au minute par minute.
Dur, voilà.
On voit bien que la situation est plus complexe. Et donc peut-être
c'est
moins
plus subtil,
voilà,
c'est plus subtil que ça.
Peut être présenté par les syndicats et c'est normal, ils font leur travail.
Évidemment,
les syndicats,
on est passé de quelque chose qui était qu'est-ce que c'est que cette méthode, ça n'avance pas, on n'en veut pas, à c'est compliqué. Donc quand on dit que c'est compliqué, c'est que déjà on veut essayer de comprendre. Et donc c'est une petite avancée. Après reste l'enjeu par rapport à l'opinion. Si le pays est bloqué, la faute à qui? Et on fera le film de savoir si il était nécessaire d'en passer par des mois d'attente depuis la rentrée pour en arriver là au mois de décembre. Parce que les commerçants, ils sont au-delà de la crainte. Hein. Ils sont plein dedans.
Ils ont des gros problèmes.
Pour conclure, Philippe.
Ça pourrait être gagnant-gagnant, mais ça peut être aussi perdant-perdant. Et puis, il y a un autre obstacle aussi, malgré tout, c'est que là, on n'est pas entré dans la phase législative. Donc, le projet, une fois qu'il sera présenté, examiné en Conseil des ministres, ça revient à l'Assemblée nationale.
Oui, mais ça, c'est juste avant les municipales. Que fera la droite à ce
Exactement.
Moment-là
Exactement. Et ça, ce sera juste avant les municipales.
Absolument.
Et ça, on en parlera la semaine prochaine.
Absolument.
Les grands points. Merci beaucoup. Merci à vous.
Merci.
Europe 1. À suivre, Nathalie Lévy.
On reste ensemble. Le journal de 19h de Isabelle Millet. À la une de l'actualité ce soir, la SNCF, elle promet des trains garantis pour Noël, pour vous.
Votre grand journal du soir avec Nathalie Lévy, c'est tous les jours jusqu'à 20h sur Europe 1. Jusqu'à 20h, c'est votre grand journal du soir. Nathalie Lévy, la suite du programme avec vous.
Je vous dis tout, 19h10, l'invité politique, la secrétaire d'État chargée des affaires européennes, Amélie de Montchalin. 19h20, demain en France, demain dans le monde, et puis demain dans nos vies. À 19h30, on se projette vers Noël. Bah oui, quand même, c'est dans moins de 2 semaines. Alors allons-y, les courses, les cadeaux, le marathon a commencé. On va essayer quand même de ralentir la cadence. Si on arrêtait la surconsommation, ça peut faire du bien à votre porte-monnaie et aussi à la planète. Alors allons-y, 19h45. Alors là, on est à fond dans le week-end. Les meilleures bûches du moment, on va les déguster. Et puis les bons plans du Figaro Magazine. Allez, c'est pour vous. C'est un programme complet, détaillé et gourmand. Et c'est jusqu'à 20h.
Et on vous attend pour réagir. N'hésitez pas, ça se passe au 39-21, votre grand journal du soir. C'est avec Isabelle Millet et Nathalie Lévy. Vous écoutez Europe 1, il est 19h.
À partir de mardi, nous mettrons en ligne les trains qui vont circuler de façon totalement garantie jusqu'à dimanche 22.
La SNCF va donc dévoiler à partir de mardi un plan de circulation garanti pour les TGV afin que les usagers soient fixés avant les vacances de Noël et puissent envisager éventuellement un plan B.
L'inquiétude dans le sud-ouest en raison cette fois des intempéries. Elles sont spectaculaires et elles ont déjà fait une victime.
L'attaque au couteau ce matin à la Défense près de Paris. Un homme visiblement déséquilibré évadé d'un hôpital psychiatrique a menacé des policiers qui l'ont abattu. Et puis l'élection de Boris Johnson qui ravit la City. Les indicateurs sont au vert.
Et le temps météo, et avec vous, c'est Anissa.
Eh bien, dans le sud-ouest, il pleut actuellement assez fort. Je vous donnerai tous les détails en cette fin de journal. Et puis, on va jeter un œil aussi également sur tous ces départements qui sont placés en vigilance orange et rouge, crue, pluie et inondation.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Isabelle Millet, Nathalie Lévy.
Le trafic restera très perturbé ce week-end à la SNCF.
Et effectivement, avec samedi et dimanche en moyenne, un TGV sur 4, un Transilien sur 6, 3 liaisons TER sur 10, côté intercité, un train sur 5 samedi, mais seulement
un train sur 10 dimanche.
Par ailleurs, Europe 1 vous l'annonçait dès 16h cet après-midi, la SNCF met en place un plan exceptionnel pour Noël afin que les usagers ne soient plus dans l'incertitude.
Hein. Oui, qu'ils sachent si oui ou non leur train circulera pour les fêtes de fin d'année. Écoutez, Agnès Augier, elle est la porte-parole de la SNCF.
Pour Noël, pour les départs en vacances qui viennent, à partir de mardi, nous mettrons en ligne les trains qui vont circuler, là encore, de façon totalement garantie, jusqu'à dimanche 22, pour ce qui concerne les trains longue distance. En parallèle, pour que les gens vraiment aient une information fiable individuellement, nous enverrons à chacun de nos clients qui avait un billet réservé sur cette période un SMS pour les informer de leur situation, c'est-à-dire savoir si leur train circule. Si leur train ne circule pas, nous leur proposerons des trains alternatifs sur la même journée, à chaque fois que c'est possible. Pour ce qui est de la période plus réveillon, donc 24, 25, 26, on fera la même chose jeudi prochain.
La porte-parole de la SNCF au micro de Maud Descamps.
Le pass Navigo pour les usagers des transports d'Île-de-France, cette fois, sera lui partiellement remboursé, annonce qu'a fait ce matin sur Europe 1 la patronne de la RATP. La RATP qui annonce ce soir encore de grosses perturbations demain avec à Paris 9 lignes de métro fermées et un trafic qui sera extrêmement réduit pour dimanche.
Et en ce moment même, le Premier ministre Édouard Philippe et son ministre de l'Éducation sont à Nancy et ils s'adressent à qui ? Aux enseignants.
Oui, Édouard Philippe et Jean-Michel Blanquer prennent le temps d'écouter et de répondre aux questions des profs qui s'estiment, on le sait, lésé par cette réforme des retraites.
Et Emmanuel Macron, qui jusqu'à présent s'était refusé à tout commentaire, a parlé cet après-midi de réforme, je le cite, historique pour le pays.
C'est une réforme de refondation, avant toute chose, a-t-il dit, de transformation de notre système et qui va donner sa pleine force dans le temps, le président qui était à Bruxelles.
Et oui, les autorités, par ailleurs, qui appellent à la plus grande prudence. Ça se passe dans le sud-ouest ce soir de la France. Les intempéries ont déjà fait une victime et 5 blessés, Isabelle.
Oui, les Pyrénées-Atlantiques ont été placés en vigilance rouge pour pluie et inondation. Le niveau des gaves de Pau et d'Oloron est inquiétant. Le ministère de l'Intérieur invite les habitants à s'éloigner des cours d'eau. Stéphane Place, on vous retrouve en direct. Bonsoir Stéphane.
Bonsoir Isabelle, bonsoir à tous.
Vous êtes à Peyrorade, hein, c'est dans les Landes où la situation est particulièrement préoccupante.
Oui, depuis quelques minutes seulement, la pluie s'est interrompue, mais ces dernières heures, ce sont des trombes d'eau qui se sont abattues ici sur cette petite ville de Peyrorade, au point qu'il a fallu évacuer un quartier complet. 600 personnes qui ont été invitées à quitter leur domicile parce que l'eau était en train de monter. Parmi ces habitants évacués, Claire, qui a rejoint il y a quelques minutes le centre d'accueil, ouvert spécialement ici, dans le centre de Peyrorade.
L'eau est arrivée sur la route et derrière la maison aussi. Et bon, on ne voulait pas partir, ils sont venus nous chercher, on a dit non, on reste. Parce qu'on a la maison à étage, donc ça ne va pas monter jusqu'en haut. Hein. Ils sont revenus ce soir nous chercher, il a fallu embarquer là. Ils nous ont pris et hop, il a fallu partir. Mais on est obligé de rester, on ne peut pas. Hein. Ils sont venus nous chercher avec les bateaux, hein. Oui. On ne risque pas rentrer à la maison. Hein.
Vous avez pris quelques affaires
Je ne sais pas. Ouais. J'ai pris des trucs, je ne sais pas. J'ai mis dans le sac. On a les médicaments, c'est le principal. Oh là là, misère.
Alors évidemment, ces habitants ne se réjouissent pas à l'idée de passer la nuit loin de leur domicile, mais l'accueil est soigné. Il y a des lits de camp qui ont été spécialement déposés ici dans cette salle. Et puis on prépare également un repas chaud pour la vingtaine de personnes qui ont été sur le total des 600 évacués. Eh bien, beaucoup sont allés se réfugier chez leurs proches ou chez des amis.
Merci beaucoup à vous. Stéphane Place en direct de Peyrorade dans les Landes pour Europe 1.
C'était comme si on y était. Merci à lui. Le procureur de Nanterre, Isabelle, a donné des précisions ce soir sur cette attaque au couteau ce matin sur l'esplanade de la Défense.
Un homme qui menaçait des policiers a été abattu.
Rien ne permet de retenir le caractère terroriste dans cette tentative de meurtre à l'encontre des fonctionnaires de police. L'individu a été identifié comme étant un ressortissant marocain âgé de 42 ans qui est en situation irrégulière sur le territoire national. Il a été condamné en 2011 et avait fait l'objet à l'époque d'une interdiction du territoire pendant 3 ans. L'individu a été hospitalisé à plusieurs reprises en milieu psychiatrique. Il était d'ailleurs évadé d'un hôpital psychiatrique parisien depuis le 18 juin 2019 et était recherché à ce titre. Il était inscrit au fichier des personnes recherchées. L'individu est totalement inconnu des services de renseignement. Il n'apparaît pas du tout comme étant religieux et son geste apparaît clairement comme étant celui d'une personne déséquilibrée psychiquement.
La procureure de Nanterre, Catherine Denis, au micro Europe 1 de Guillaume Bier. Le nombre de morts sur les routes de France a baissé de 5,2% par rapport au même mois l'an dernier, avec 254 personnes décédées contre 268 en 2018. Sur les 12 derniers mois, le nombre de victimes est en baisse de 0,6%.
On traverse la Manche, en Grande-Bretagne maintenant. C'est un Boris Johnson fort de son large succès aux législatives qui s'est rendu ce matin à Buckingham Palace, où la reine Elisabeth a acté sa réélection comme Premier ministre.
Et oui, une victoire qui devrait lui permettre de réaliser le Brexit d'ici fin janvier et qui, ça peut surprendre, mais qui finalement a plutôt rassuré les marchés. Théo Manval, vous êtes à Londres pour Europe 1. La City a bien réagi, hein.
Oui, la plupart des indicateurs sont au vert ce soir sur les écrans des banquiers de la City. La bourse de Londres a bondi de plus de 3%. La livre sterling a connu son plus haut niveau face à l'euro depuis 3 ans. C'est en fait une immense pression qui s'est envolée de nos épaules, explique James, employé d'un fonds d'investissement. Parce que, dit-il, on sait enfin où l'on va et ça se ressent.
Pour signer des accords, pour faire des transactions, il faut que les gens aient confiance, qu'ils soient prêts à prendre des risques. Et jusque-là, on était dans une impasse. Personne ne voulait rien faire. La clarté pour les affaires, c'est une bonne chose, c'est le début d'une nouvelle ère.
Alors magique, le Brexit pour les affaires, tous les entrepreneurs ne sont pas d'accord, car finalement de l'incertitude, il en reste hein, quand même. L'année qui vient va servir à négocier les futurs rapports entre le Royaume-Uni et l'UE, les accords douaniers, les normes, la concurrence. Et si Boris Johnson promet qu'il n'y aura pas de taxes supplémentaires aux frontières, rien ne permet aujourd'hui d'en être sûr, ce qui maintient de nombreux commerçants comme Denise dans l'inquiétude. Elle importe du prêt-à-porter.
Personne ne sait à quoi s'attendre sur les taxes. Est-ce qu'on va perdre nos marges? Chaque centime fait la différence. On a besoin du libre-échange. Cette industrie ne peut pas survivre sans ça.
Et même si Bruxelles dit vouloir un partenariat le plus étroit possible, il faudra encore de longs mois, voire des années, pour savoir précisément à quoi s'en tenir.
Théo Manval, envoyé spécial d'Europe 1 à Londres.
Et on est avec Didier François sur ce sujet à 19h20. Tremblement de terre, en tout cas tremblement de terre sur le papier, parce qu'il y avait quand même une grosse attente autour de ces élections cette nuit. Et voilà la victoire des conservateurs aux législatives. Quid après, il nous donne sa réponse. Merci Isabelle Millet, autour de l'info 19h30 et Anissa qui va nous dire que plusieurs départements sont en vigilance.
Oui, soyez extrêmement prudents, surtout dans le sud-ouest. Hein. Ce soir, plusieurs départements sont placés en vigilance orange. Alors, vigilance orange pour 7 départements dans le sud-ouest, orange pluie, inondation et crue, et vigilance rouge pour le département des Pyrénées-Atlantiques. Vigilance orange également aux avalanches pour l'Isère, la Savoie et la Haute-Savoie, et vigilance orange au vent fort pour les deux départements de la Corse. Alors, grande prudence, si vous nous écoutez actuellement, il pleut assez fort à Brive-la-Gaillarde, à Aurillac, à Lourdes, à Pau, à Périgueux, à Toulouse, à Marmande, à Bordeaux. Ces pluies, elles se décalent vers l'est et attention, elles arrivent sur Perpignan, sur Argelès-sur-Mer, sur Narbonne et sur Montpellier. Donc dans tous ces secteurs, essayez d'éviter de vous déplacer parce que ces pluies, elles sont assez fortes. Demain, pour vous résumer la journée, de la pluie, du vent fort et des nuages.
On reste aux abris.
Sauf au bord de la Méditerranée où là, le temps sera beaucoup plus calme.
Europe 1.
À la suite de votre grand journal du soir, Nathalie Lévy.
Avec l'interview politique, bonsoir Aurélie Herbemont.
Bonsoir Nathalie.
Votre invitée ce soir,
Amélie de Montchalin, secrétaire d'État aux affaires européennes. Elle arrive tout juste de Bruxelles. On va parler du Brexit qui devrait enfin avoir lieu.
Et l'interview politique d'Aurélie Herbemont, c'est dans un instant sur Europe 1. La suite de votre grand journal du soir, Nathalie Lévy, avec l'interview politique.
Aurélie Herbemont, votre invitée ce soir, la secrétaire d'État chargée des Affaires européennes, Amélie de Montchalin.
Bonsoir Amélie de Montchalin.
Bonsoir.
Boris Johnson a largement remporté les élections hier au Royaume-Uni. Le Brexit, ce sera le 31 janvier. Cette fois, c'est la bonne?
Écoutez, ça fait 3 ans que le référendum avait eu lieu. Ça fait plus de 2 ans qu'on était quand même dans des débats très compliqués. Et la position de la France, la position du président de la République, depuis tout ce temps-là, c'était d'avoir de la clarté. Et une partie de la clarté, c'était parce que nous manquions d'un alignement entre le peuple britannique, le Parlement britannique et le gouvernement britannique. Ce qui s'est passé hier, c'est que ces élections réalignent, nous permettent de savoir ce que veut à la fois le peuple britannique, maintenant ce que va vouloir son Parlement et ce que voudra son gouvernement. Et donc, nous sommes maintenant dans une position où nous allons pouvoir avoir un oui ou un non, mais a priori plutôt un oui.
Plutôt un oui.
À l'accord qui a été mis sur la table pour que le Brexit ait lieu de manière ordonnée au plus tard le 31 janvier. Maintenant.
Sauf que maintenant, tout commence. Il faut négocier la nouvelle relation entre le Royaume-Uni et l'Union européenne.
Mais on en est très content. Parce que le Brexit, c'est une décision politique. Mais les liens économiques, les liens commerciaux, les liens culturels, tout ce qui fait que ce pays qui est à 50 km de la France, ne parle pas d'un pays qui est à l'autre bout du monde. Il est à 50 km de Calais. Ce pays avec qui nous avons, nous Français, nous Européens, des liens très forts, nous avons à construire une relation. Et nous avons à reconstruire une relation puisqu'il y a un divorce, mais il y a un après. Ce qui compte pour nous, néanmoins, c'est que cette relation, il faut qu'elle soit équilibrée.
Alors justement, quelles sont les lignes rouges, les conditions que la France pose à cette relation que vous espérez équilibrée?
Il faut qu'on évite à tout prix d'avoir à nos portes un pays qui ne respecte pas, au fond, les conditions d'un commerce, d'échange équilibré, juste, réciproque. Ça veut dire qu'on ne veut pas, par exemple, que des produits qui sont interdits en Europe arrivent par le Royaume-Uni. On ne veut pas que les normes sanitaires ne soient pas respectées. On ne veut pas que les normes environnementales ne soient pas respectées. On ne va pas faire plein d'efforts chez nous, dans l'Union européenne, et puis avoir un concurrent déloyal en face. Donc, c'est ce qu'a dit Michel Barnier. On est prêt à faire du libre-échange, zéro tarif douanier, zéro quota, c'est-à-dire zéro limite de volume, mais zéro dumping. Et donc, il faut qu'on construise ça. On est très clair côté européen sur ce qu'on veut et ce qu'on ne veut pas. On pense que Boris Johnson a bien compris qu'il y avait des choses qu'on voulait et qu'on ne voulait pas. Et on attend aussi de lui qu'il mette bien en œuvre l'accord qui a été aussi négocié pour que notamment l'Irlande soit bien dans le cadre que nous avons considéré comme étant protecteur pour les Irlandais et pour les Européens.
Alors zéro dumping, notamment au niveau environnemental, parce qu'il s'est passé aussi, à part le Brexit, enfin, donc les élections britanniques, il y a eu donc ce fameux Green Deal, ce pacte vert qui a été adopté à la Commission européenne. Je rappelle l'objectif pour nos auditeurs, c'est la neutralité carbone du continent d'ici 2050. Emmanuel Macron s'en est félicité sur Twitter, sauf que la Pologne, qui est le plus gros pollueur d'Europe, n'est pas dedans.
Alors, c'est pas tout à fait ça, c'est d'abord historique. On est le premier continent au monde à avoir, à l'unanimité, Pologne compris, hier soir, dit une chose très forte. On a le même objectif. On a l'objectif qu'en 2050, nous soyons un continent où on ne produit pas plus de carbone qu'on en stocke. Ça veut dire qu'on n'émet plus de carbone en plus dans l'atmosphère, tous ensemble. La Pologne nous dit, et on peut les entendre, on n'est pas sur le même point de départ que vous.
Ils sont très dépendants au charbon.
Exactement. Donc, on se pose des questions sur la mise en œuvre. Mais ils ne récusent pas l'objectif. Et ça, c'est une vraie victoire. C'est la victoire, vous savez, d'un travail diplomatique qu'on mène depuis maintenant plus de 2 ans, qu'on a mené de manière très méthodique. Vous avez des pays qui ont changé d'avis entre le mois de juillet et maintenant, la République tchèque, la Hongrie, l'Estonie, qui sont des pays aussi qui ont des modèles énergétiques, industriels, qui sont beaucoup plus carboné, j'allais dire, ou en tout cas intensif en CO2 que le nôtre, et qui ont changé d'avis. Pourquoi c'est important? Parce qu'aujourd'hui, ça veut dire que la Commission européenne peut appliquer plein de mesures et on n'a pas besoin de l'unanimité. On peut donc, on n'a plus le problème d'être bloqué par l'un ou l'autre. On s'est mis d'accord sur l'objectif, maintenant on y va. On y va sur les accords commerciaux, on y va sur ce qui se passe à nos frontières, pour qu'on arrête d'importer des choses qui sont produites sans respecter nos normes.
La taxe carbone aux frontières de l'Europe, la verra quand, vous pensez?
C'est une proposition qui va être faite par la Commission d'ici le mois de mars. Il y a tout un travail technique à mettre en œuvre. Mais aujourd'hui, on a un accord unanime. Tout le monde pense que c'est important d'avoir un mécanisme pour protéger nos emplois, parce que si on renforce nos normes sur le climat, on ne veut pas pour autant être face à nouveau à une concurrence déloyale. Il y a des choses très importantes. Le plastique, le recyclage, il y a toute notre économie, comment on se déplace, comment on construit des logements, comment ensuite on produit. Donc, on est dans le concret. Ce qui est vraiment important, c'est que vous savez, sur le climat, les Français, parfois, ils ont une forme de défiance qu'on peut comprendre. En disant, vous faites des grands discours, vous nous annoncez des grandes choses.
Et on attend les actes.
Et où sont les actes? Là, ce qui s'est passé cette nuit, c'est clé. On est tous d'accord sur l'objectif. On voit bien qu'on n'est pas au même point de départ.
La Pologne prendra peut-être plus de temps.
On leur a dit, nous, on est prêts à vous accompagner, même financièrement, pour que vous soyez avec nous à l'arrivée en 2050 à la neutralité. Si vous ne vous engagez pas là-dessus, on mettra moins de moyens. Hein, c'est aussi un deal. Mais ce qui est clé, c'est que c'est historique et que c'est une forme de souveraineté face à la Chine, face aux États-Unis, qui, eux, n'ont pas du tout la même démarche.
Alors, parlons un petit peu de politique française et de la réforme des retraites. Enfin, surtout, pas tout de suite présentement du fond, mais de votre collègue Jean-Paul Delevoye. Est-ce qu'il n'est pas trop fragilisé pour continuer à mener cette réforme?
Bon, d'abord, ce qu'on sait, c'est que Jean-Paul Delevoye, ça fait 2 ans qu'il a mis à jour toute la complexité du système actuel. Et il faut vraiment être extrêmement reconnaissant de ce travail. Je crois que personne ne comprenait rien aux retraites. Je ne suis pas sûre qu'on comprenne tout, mais ce qui est sûr, c'est qu'on sait maintenant de quoi on a besoin. On sait ce qui ne fonctionne pas, on connaît les inégalités, ce dont souffrent les femmes, ce dont souffrent les agriculteurs, les commerçants. Il a fait un travail énorme.
Sauf que On apprend aujourd'hui qu'il a oublié dans sa déclaration d'intérêt de mentionner qu'il siège au conseil d'administration de la Fondation SNCF. Il y a quelques jours, on a appris qu'il avait oublié aussi de mentionner dans sa déclaration d'intérêt qu'il était administrateur bénévole d'un institut de formation dans l'assurance. On a aussi appris...
Ce que je peux vous dire tout là-dessus, c'est qu'il est de bonne foi, c'est des oublis. Il n'y a pas de volonté de dissimulation et ce sont des fonctions bénévoles.
Alors, il y a une fonction qui n'est pas bénévole, justement, Amélie de Montchalin. Il était aussi à la présidence d'un institut de réflexion sur l'éducation. Il était rémunéré. Il l'était encore jusqu'à il y a quelques jours, alors qu'il était ministre et que c'est interdit. Est-ce que ça ne fait pas beaucoup pour le ministre en charge de la mère des réformes ?
Moi, ce que j'entends, c'est qu'il y a des oublis, il n'y a pas de volonté de dissimulation, il y a de la bonne foi et il y a des fonctions bénévoles. Sur le reste, je crois qu'il a apporté lui-même des explications et je préfère m'en tenir là parce que vous voyez bien ce qui est clé aujourd'hui.
C'est du pain béni pour l'opposition, vous ne le craignez
mais
pas.
On doit rassurer les Français. Vous savez, être bénévole dans une fondation qui apporte, des actions de cohésion, des actions de solidarité, je ne pense pas que ça remette quoi que ce soit en cause du projet qui est le nôtre. Le projet, c'est quoi ? C'est faire une réforme de justice pour les jeunes, pour les femmes, pour les agriculteurs, pour tous ceux qui, aujourd'hui, on vous dit, vous avez une carrière hachée. Ça veut dire quoi, une carrière hachée ? C'est juste que, parfois, vous avez subi la précarité. Parfois, vous avez eu des enfants. Vous savez, moi, je suis mère de famille. J'ai pas du tout envie qu'on m'explique que j'ai une carrière hachée. Je veux pouvoir avoir des droits. Je veux pouvoir, comme tous les Français, comprendre comment ça fonctionne.
Et avoir une retraite décente quand vous serez à la retraite.
Aujourd'hui, ce qui compte, c'est de l'égalité, c'est de la lisibilité. On essaie de faire des choses transparentes. Et il y a tout un débat qui a repris avec les syndicats. On voit bien qu'il y a des points sur lesquels on est d'accord et des points sur lesquels on n'est pas d'accord. On va travailler ensemble. C'est ça l'essentiel.
Et vous espérez que ça ira mieux pour les usagers d'ici Noël. Merci beaucoup, merci. Amélie de Montchalin, d'avoir été mon invitée.
Europe 1. À suivre, Nathalie Lévy.
Restez avec nous, on va regarder vers Noël. Eh oui, un petit peu quand même, parce que c'est pas loin, c'est dans moins de deux semaines, les courses, les cadeaux, le marathon a commencé. Comme chaque année, c'est déjà la folie, alors la surconsommation, tiens, on peut y renoncer ? On s'en parle avec nos invités dans un instant.
Vous écoutez votre grand journal du soir, vous êtes sur Europe 1, jusqu'à 20h. La suite de votre grand journal du soir, Nathalie Lévy. Et comme tous les jours à cette heure-ci, on s'intéresse à ce qui va se passer demain.
Eh oui, demain en France, demain dans le monde, demain dans nos vies. On commence par Marseille, demain, avec une initiative citoyenne hors du commun, quand des bénévoles se retroussent les manches pour nettoyer une cité de quelques 1000 logements devenus une véritable poubelle à ciel ouvert. C'est avec vous, Nathalie Chevance. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous nous emmenez dans une cité des quartiers nord. Les habitants, personne n'espère qu'une chose, retrouver un peu de dignité, hein.
Oui, et cela va se passer Cité Corot, un parc privé qui a longtemps été gangréné par les réseaux de drogue, de prostitution et qui aujourd'hui tente de relever la tête parce qu'il y a aussi des familles qui paient ici des loyers au beau milieu des gravats, des pneus, des frigos et autres déchets abandonnés dans ce parc qui sera donc demain le théâtre d'un gigantesque ballet de tractopelles et de bennes à ordures. Et cette initiative, c'est celle de Jean-Yves Sayag, lanceur d'alerte, qui depuis plusieurs mois déjà multiplie ce genre d'opération dans la région en réussissant à se faire du matériel pour mettre un coup d'arrêt à des comportements hors la loi.
C'est-à-dire que ce sont des professionnels du bâtiment, des artisans du bâtiment qui viennent, toute impunité, déverser leur gravats, jeter leur menuiserie, jeter tout ce qu'ils ont plus besoin pour ne pas fréquenter le centre de tri, puisque c'est payant. Donc ici, il y a de la place, personne ne dit rien, on ferme les yeux, donc on vient, on jette.
Alors là, par exemple, on est devant un énorme tas d'immondices, il y a quoi là ?
Là, vous avez beaucoup de gravats, beaucoup de plastique, beaucoup d'électroménager. En fait, on va tout ratisser, on charge. On part au centre de tri. On a estimé entre 500 et 600 tonnes de gravats. Ouais, c'est énorme. Non, ça ne peut plus durer. Comment on va laisser notre terre ? Et surtout, à qui on va la laisser ? À nos enfants, à nos petits-enfants ? On va leur laisser dans quel état ?
Voilà, 3 mois de préparation pour monter cette opération qui va mobiliser aussi des petites mains, une bonne centaine, qui auront pour mission de construire un mur en pierre pour empêcher le déversement de nouveaux déchets dans ce parc privé.
Merci Nathalie Chevance depuis Marseille. Demain dans le monde, c'est avec vous Didier François. Bonsoir.
Bonsoir.
Oh là là, incroyable. Ça y est, on y est, ou presque en tout cas. Hein. La Grande-Bretagne qui va finalement quitter l'Union Européenne 3 ans après avoir décidé de ce Brexit. Victoire sans appel de Boris Johnson cette nuit. Législative anticipée. Bon alors quoi, sortie avant la fin de l'année, voire même avant Noël, franchement.
Alors politiquement, c'est désormais possible puisque le Premier ministre britannique va disposer d'une majorité absolue avec un groupe conservateur qui n'a jamais été aussi fort au Parlement. Pas même à l'époque de Margaret Thatcher. Et surtout, il sera composé de députés qui ont tous été choisis par Boris Johnson et qui sont donc favorables à une sortie rapide de l'Union européenne. Pas de risque cette fois de retomber dans les divisions internes qui avaient paralysé le gouvernement de Theresa May et l'avaient poussé à la démission.
plus important encore, le mandat qui a été donné par les électeurs britanniques et on ne peut plus clair, c'est de mettre en œuvre le Brexit, ce qui est d'ailleurs l'unique mot d'ordre de la campagne de Boris Johnson, et puis de mettre un terme définitif à la guérilla législative. C'est la crainte d'une prolongation insupportable de cette situation de blocage qui a été l'élément clé de l'énorme défaite infligée au Labour, au Parti travailliste. Et fort de ce qu'il considère comme un plébiscite en sa faveur, eh bien Boris Johnson a immédiatement annoncé son intention non seulement de sortir avant le 31 décembre, mais de négocier un accord commercial avec l'Union européenne avant la fin de l'année.
Oui, négocier, on entend ça sur toutes les lèvres, mais ça paraît quand même un peu ambitieux cette date, non ?
Oui, effectivement, alors, c'est ce qu'a dit
Amélie de Montchalin.
Exactement,
bah, sûr,
et puis c'est ce qu'a répondu aussi Charles Michel, le président du Conseil européen, qui rappelle que le traité négocié avec Londres pour un Brexit maîtrisé prévoit une phase de transition d'une année. On l'a donc jusqu'au 31 décembre 2020 pour élaborer un véritable accord commercial qui ne laisse ni l'Europe ni la Grande-Bretagne, car la seule chose qui pourrait être réalisée en 15 jours, eh bien, ce serait une rupture complète des liens économiques tissés depuis le 1er janvier 73, date de l'adhésion britannique à la communauté européenne, ce qui entraînerait une dérégulation totale des échanges, et il y aurait alors un concurrent à nos portes, a prévenu Angela Merkel, un concurrent déloyal, a même renchéri Emmanuel Macron, hypothèse que rejette la chancelière allemande et le président français.
Eh oui, voilà. Alors, des dates, une date en tout cas. On verra comment ça s'accélère ou pas dans les prochains jours. Merci beaucoup Didier. François, vous suivez ce dossier de près. Merci. Demain dans nos vies, c'est avec vous Théophile Cossa, le rendez-vous pour nous projeter dans le monde de demain. On parle d'amour ce soir ?
Oui.
C'est si rare.
Oui, avec un peu de Daïda, ça va toujours mieux. Oui, Nathalie, de l'amour
pour bien
terminer la semaine. De l'amour avec cette question, à quoi ressembleront nos relations amoureuses d'ici quelques années et surtout, comment rencontrera-t-on l'âme sœur demain ?
Ah ça oui.
Eh bien, je vais peut-être un peu vous décevoir, mais il y a de grandes chances pour que ce soit sur Internet.
Et voilà.
Figurez-vous que d'ici 2035, au Royaume-Uni, la majorité des couples se seront rencontrés en ligne. C'est le résultat d'une étude très sérieuse du prestigieux Imperial College à Londres. Ils se sont appuyés sur les stats de l'INSEE britannique et la conclusion est limpide, si bien qu'en 2037, plus de la moitié des bébés naîtront grâce à Internet.
Oh là là, c'est fou.
Tristesse.
Alors, chez nos amis anglais, d'accord, mais pas en France.
Eh bah si, la tendance est quasiment la même, et oui, même au pays du romantisme. D'ailleurs, en 2018, les chiffres de l'IFOP annonçaient déjà la tendance. Plus d'un Français sur quatre s'est déjà inscrit au moins une fois sur un site ou sur une appli de rencontre. Internet a changé radicalement nos vies, nos usages. Dans les années 70-80, un couple sur cinq se rencontrait dans un bar. Aujourd'hui, c'est le cas pour seulement un couple.
Au bal même.
Au bal. Aujourd'hui, c'est le cas pour seulement un couple sur 14. Au bal de Saint-Jean, c'est plus le cas. Et il faut dire qu'avec nos smartphones, c'est plus facile. D'ailleurs, près de la moitié des personnes interrogées voient ces applis comme une aubaine, surtout pour les grands timides, et il y en a. Et puis après tout, Nathalie, tant qu'il y a de l'amour, pourquoi pas ?
Bah oui, écoute. Oh, bah c'est parti.
Tant qu'il y a de l'amour.
Allez, Dalida.
Tant qu'il y a de la Wi-Fi surtout.
Super, merci beaucoup. Bah écoutez, on rêve aussi sur Internet et on peut trouver l'âme sœur. Voilà, Théophile Cossa. Merci, vous nous donnerez la clé. Enfin, vous dites-vous votre expérience. Allez, merci à vous. Le rappel des titres juste après 19h30, on parle de Noël, un Noël green, un Noël sans trop consommer, sans surconsommer en tout cas. On vous donne des clés.
Votre grand journal du soir avec Nathalie Lévy, c'est tous les jours jusqu'à 20h sur Europe 1. 19h30 sur Europe 1, votre grand journal du soir, Nathalie Lévy.
Les titres d'Isabelle Millet.
Et le patron de la SNCF, Jean-Pierre Farandou, appelle les cheminots en grève à faire une pause pendant les fêtes afin que les familles puissent se retrouver. Un grand nombre de nos concitoyens voudront voyager pour retrouver leurs parents, leurs enfants, leurs amis, dit-il dans une vidéo interne à l'entreprise. En tout cas, pas d'amélioration prévue pour ce week-end, avec en moyenne un TGV sur 4, un Transilien sur 6, 3 liaisons TER sur 10. Côté intercité, un train sur 5 samedi, et puis un train sur 10 seulement dimanche. La SNCF qui met en place un plan exceptionnel. Si vous avez un billet pour le premier week-end de Noël, vous saurez mardi prochain si votre train est maintenu. Le cas échéant, la SNCF vous dédommagera. En ce moment, à Nancy, Édouard Philippe et Jean-Michel Blanquer rencontrent des enseignants en pointe dans la contestation, même si le climat semble s'être un peu détendu. Après un rendez-vous aujourd'hui au ministère de l'Éducation. Un mort et cinq blessés, 170 000 personnes toujours privées d'électricité. Le Sud-Ouest, une nouvelle fois touché par les intempéries. Donald Trump renonce à imposer de nouveaux tarifs douaniers contre Pékin. Un accord préliminaire a été conclu dans la guerre commerciale qui oppose les deux premières puissances économiques mondiales. La victoire magistrale de Boris Johnson, la Grande-Bretagne va bien quitter l'Union européenne. Cette fois, c'est acté. Et puis les Algériens dans la rue pour dénoncer l'élection comme président d'Abdelmajid Tebboune, qui est un ancien premier ministre d'Abdelaziz Bouteflika.
Merci beaucoup Isabelle Millet. Et puis ce soir, on apprend qu'Édouard Philippe reçoit les dirigeants de la SNCF et de la RATP. On avance, on accélère, hein, évidemment, à la veille de ces fêtes. Anissa, du côté du ciel.
Oui, grande prudence pour les prochaines heures, Nathalie Lévy, puisque les Pyrénées-Atlantiques ont été placées en vigilance orange ce soir. Pluie, inondation, attention, crue aussi hein, pour les Landes pour les prochaines heures jusqu'à 8h demain matin. Des pluies assez fortes sont attendues. Vigilance orange, pluie, inondation dans 7 départements du sud-ouest. Vigilance orange aux avalanches, également pour l'Isère, la Savoie et la Haute-Savoie, et vigilance orange vent fort pour les deux départements de la Corse. Alors il pleut actuellement très fort sur le sud-ouest, ces pluies vont se décaler vers l'est pour toucher le golfe du Lion. Et puis demain, c'est une journée encore très agitée, beaucoup de nuages, des pluies. En fait, la seule région qui sera au sec et au calme demain, c'est le pourtour méditerranéen.
Europe 1.
Votre grand journal du soir se poursuit avec vous, Nathalie Lévy.
Et on va se mettre un petit peu dans l'ambiance de Noël. Quelques minutes en tout cas, parce que les courses, les cadeaux, on est en plein dedans, ou presque. Et comme chaque année, désormais, c'est la folie de la surconsommation. Si on ralentissait un petit peu la cadence, ça ferait du bien à la planète, du bien à notre porte-monnaie aussi. On en parle avec nos invités, avec vous, Oriane Raffin. Bonsoir.
Bonsoir.
Bienvenue, vous êtes journaliste. Vous avez signé cet article dans l'hebdo Le 1, ces Français qui font Noël autrement. Vous allez nous livrer cela dans un petit instant. Également en ligne avec Sandra Wabien. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes directrice du pôle société au CREDOC, c'est le centre de recherche pour l'étude et l'observation des conditions de vie. D'abord, Sandra, pour planter un petit peu le décor, si vous le voulez bien, nos habitudes de consommation, elles sont aujourd'hui complètement différentes. On a des besoins et une manière de consommer aujourd'hui qui a changé véritablement.
Alors complètement différente, là je pense que vous allez un petit peu loin. On va dire qu'il y a une prise de conscience du fait que quand on consomme, il y a un impact sur la planète. Après, les chiffres vont pas encore vraiment dans le sens d'une décroissance. Hein. Par exemple, le Black Friday a été un succès monumental avec une augmentation des ventes. Bon, donc voilà, il y a une prise de conscience, mais pas encore vraiment de passage à l'action en termes de consommation. Mmh. Ou très très mesuré.
Très mesuré. Et ça dépend aussi de là où on vit.
Alors, en fait, globalement, la préoccupation environnementale, elle a augmenté chez tous les Français, plus particulièrement chez les jeunes, mais elle est présente, quels que soient les territoires, avec des préoccupations un petit peu différentes, c'est-à-dire qu'on va être plus proche peut-être de la nature et donc plus inquiet que celle-ci soit abîmée, qu'il y ait de la pollution de l'eau, qu'il y ait de la pollution de l'air, en zone rurale, et puis en ville, davantage de la pollution liées aux voitures, etc. Mmh. Mais en termes de consommation, il y a des petites évolutions et notamment l'idée qu'il faut essayer de consommer plus vert, en fait.
Bah oui, c'est ça. Plus facile, plus évident, plus... Vous avez rencontré Oriane Raffin, justement, des gens qui essayent de consommer autrement, plus vert, certes, moins coûteux, plus éco-responsable, mais pas seulement, il y a des façons de faire.
Oui, il y a aussi des changements, alors c'est pas que faire évoluer la consommation, parce que maintenant, il y a un marketing vert qui est assez impressionnant. Non, c'est même des gens qui vont essayer, alors on ne peut pas dire décroissant, ce serait exagéré, parce qu'il y a très peu de gens qui s'offrent peu de cadeaux à Noël, mais il y en a quelques-uns quand même qui vont essayer, en tout cas, de réduire le volume, peut-être d'avoir un achat un peu plus conscient. Alors, les motivations sont diverses, hein. On parlait de l'environnement, il y a aussi une démarche sociale, se dire c'est des petits-enfants en Chine. Alors, c'est un peu caricatural, mais il y a plusieurs personnes qui m'ont dit ça. J'ai pas envie que ce soit des petits-enfants en Chine qui fabriquent les jouets pour mes enfants à moi. Ouais, voilà. Ouais. Il y a aussi une dimension spirituelle, les gens qui se disent c'est Noël. Noël, j'ai pas forcément religieuse, hein, mais plus j'ai envie d'autre chose que juste une masse de cadeaux achetés sur Amazon en 3 clics.
Alors, vous allez nous dire dans quelques instants comment c'est. Les gens consomment autrement, quelles astuces ils ont trouvées pour que ce soit à la fois éco-responsable mais aussi pratique, joli, etc. Vous nous dites ça dans un petit instant. Avec vous également, Sandra Wabien.
Et vous pouvez vous aussi réagir en direct au 39-21 et nous parler de votre Noël. Si vous avez décidé de changer votre consommation, venez nous en parler en direct sur Europe 1. C'est votre grand journal du soir avec Nathalie Lévy. Et on parle de Noël sur Europe 1, c'est votre grand journal du soir. On parle de notre consommation à tous pour ces fêtes de fin d'année. Avec vos invités, Nathalie Lévy, vous recevez Sandra Wabian, qui est directrice du pôle société au Crédoc, et Oriane Raffin, journaliste, qui a signé l'article dans l'Hebdo Le 1, ces Français qui font Noël autrement.
Oui, qui va nous donner justement des illustrations dans quelques instants. Marie-Pierre d'abord de Rouen nous appelle ce soir, bonsoir.
Bonsoir. Oui, moi j'ai changé mes pratiques depuis déjà un petit moment. Je suis très convaincue du fait que à chaque fois qu'on consomme, on décide et on choisit le monde dans lequel on veut vivre. Donc moi j'ai des convictions écologiques, donc je vais aller faire mes courses de Noël de manière traditionnelle en ville.
Chez les petits commerçants,
le commerce de proximité. Si je commande sur internet, c'est directement sur le site de l'entreprise, parce que j'ai vu une entreprise en Lorraine qui vend un truc et que je le trouve pas à Rouen, mais par exemple, je n'achèterai jamais sur Amazon, parce que il y a un impact écologique qui est vraiment démultiplié, il y a un impact social, parce qu'il y a des conditions de travail imposées aux salariés qui sont atroces, il y a des faibles salaires, et en plus, ils sont en train d'aspirer la totalité du commerce, du secteur de la distribution de tout partout dans le monde.
Merci beaucoup Marie-Pierre. Vous faites attention et vous concentrez.
Vous faites attention à ce que j'achète, j'achète moins, mieux,
commerce de proximité.
Où on fait des tirages au sort pour savoir, et on a un cadeau. Et une personne, chacun a un cadeau et à faire et reçoit un cadeau.
Merci beaucoup Marie-Pierre, on vous souhaite de belles fêtes de Noël. Vous êtes en tout cas prête, vous, et très organisée, Marie-Pierre de Rouen. C'est ce que j'allais vous demander, Oriane Raffin. Elle va dans les commerces de proximité et j'allais dire que c'est le premier pas.
C'est un des pas. C'est à chacun de trouver en fait la solution qui va lui convenir, qui va convenir à sa famille, parce qu'il y a quand même cette habitude à Noël de s'offrir des cadeaux, et si on fait pas de cadeaux, on risque de passer pour l'ours qui veut pas sortir de sa caverne, ou pour
le radin de base. Mais vous avez trouvé, vous, des familles qui ont des gestes et qui ont maintenant adopté des vraies techniques.
Alors il y a une famille par exemple qui m'a parlé de faire un Noël décroissant, c'est-à-dire que chacun va offrir à une personne, une seule, ils font un tirage au sort, donc comme la famille de Marie-Pierre, un tirage au sort, et ils vont prendre quelque chose chez eux qui ne leur sert plus. Alors par exemple, ça peut être l'appareil à raclette qu'ils ont eu il y a 5 ans, qui reste au fond de la cave.
Poussiéreux,
mais qui par contre va faire super plaisir au cousin qui vient de s'installer dans sa colocation.
Et ça fait vraiment plaisir au cousin, pardonnez-moi.
Il faut choisir. Ouais. C'est ça l'enjeu. Mais ce qui est intéressant dans toutes ces personnes que j'ai rencontrées, c'est que justement, en fait, penser Noël autrement, c'est souvent faire plus attention à la personne. Mm-hmm. Et plutôt que d'accumuler des tonnes de cadeaux sous le sapin, d'aller choisir celui qui va faire plaisir, peut-être consacrer du temps, offrir une expérience, offrir, partager quelque chose en fait, et juste se dire finalement c'est pas le montant qu'on va débiter sur la carte bleue qui va signifier l'amour qu'on porte à la personne.
Ouais. Et ça, comment ça se passe? Vous avez vraiment vu que cette tendance se développait? Parce qu'on se dit que c'est chouette, évidemment, ça part d'un super sentiment, etc. Mais on va pas se mentir, on a tous envie quand même d'avoir un joli petit cadeau à Noël, ou d'offrir même un joli petit cadeau à Noël.
Mais ça n'empêche pas d'avoir des jolis petits cadeaux, en fait, c'est ça. Alors, ça va vraiment dépendre des familles et de la façon dont c'est perçu le joli cadeau, ce qu'est le joli cadeau. Ouais. Mais après, voilà, par exemple, l'association Rejouer, qui est un chantier d'insertion, récupère des jouets d'occasion. Qui sont des jouets, la durée de vie moyenne des jouets, c'est 8 mois, je crois, d'utilisation, pas de vie. Ouais. Ils vont, alors eux, il y a tout un chantier d'insertion qui va les rénover, les réparer. Ouais. Et quand on les achète dans leur boutique, ils sont presque comme neufs, j'ai envie de dire, enfin ça dépend, mais en tout cas, ils peuvent être en très bon état et ils feront tout à fait plaisir à un enfant qui ne se rendra pas compte.
Est-ce que toutes les couches de la population, tous les milieux peuvent avoir accès, enfin avoir cette envie ou cette démarche? Parce que dans des milieux plus défavorisés, on attend vraiment, on a la prime de Noël, on attend vraiment d'aller dans le magasin pour offrir le cadeau à son enfant parce que c'est une fois par an. Alors, et que ça fait sens doublement. Oui,
justement, effectivement, il y a des milieux où c'est Noël, on n'y touchera pas parce que c'est l'occasion unique où on va enfin pouvoir acheter neuf. Et voilà, tant mieux, j'ai envie de dire. Mais ça va peut-être être plus d'autres milieux où les enfants ont régulièrement des cadeaux, sont loin d'être, de ne pas avoir accès aux dernières nouveautés.
Donc, sont plus privilégiés. Donc, vous nous dites dans des couches de la population qui sont quand même plus privilégiées.
Ça dépend. En fait, ça touche vraiment différents milieux, les gens que j'ai pu rencontrer en tout cas.
D'accord, donc on recycle, donc on fait du homemade aussi, ça fait partie de cette tendance, j'imagine, qui participe aussi
tout
beaucoup.
Tout à fait, faire des choses maison, zéro déchet, ça passe aussi par l'emballage, plutôt que d'aller acheter du papier cadeau qui va être utilisé, déchiré en deux minutes et aller à la poubelle, on va utiliser des tissus qu'on va réutiliser une autre fois. Enfin, il y a plein de démarches dans ce sens-là. On peut aller aussi sur de l'immatériel, de l'expérience. Moi, l'exemple qui m'a bien plu aussi, c'est l'association Zero Waste France qui encourage justement
le gâchis, de stopper le gâchis,
les achats matériels et le neuf, qui a un défi qui s'appelle Rien de Neuf, qui disait par exemple une grand-mère qui va offrir un cours de tricot. Elle-même à son petit-fils ou à sa petite-fille. Alors, il faut que ça intéresse évidemment le petit, faut connaître la personne, mais si ça l'intéresse, ça permet aussi de partager un moment. Et du coup, c'est peut-être quelque chose qui restera plus.
C'est vrai, c'est vrai. Alors, on va voir si cette tendance se développe. En tout cas, ça fonctionne quand même. Vous nous l'avez dit, vous l'avez observé, vous êtes allé dans ces familles où on pratique cela. Voilà comment on peut revenir à une consommation responsable ou en tout cas stopper cette surconsommation qu'on a évidemment pointé tout à l'heure avec Sandra Ouabian du Crédoc. Merci beaucoup, Oriane Raffin, à cet article
Merci
que vous avez signé. C'est dans le 1, l'hebdo, bien sûr, qu'on peut le lire. Merci.
Europe 1. À suivre, Nathalie Lévy.
Oh bah ça va être gourmand là. Alors pardonnez-moi, il n'y a pas de recyclage. Hein. Les bûches, elles sont là, évidemment. Elles ont été cuisinées, préparées. Elles vont arriver là, dans
et
le studio.
Et alors, on vous conseille d'aller tout de suite vous brancher sur Europe1.fr ou d'allumer votre appli Europe 1. Parce qu'il va falloir nous suivre en vidéo pour découvrir ces magnifiques bûches. Vous écoutez votre grand journal du soir jusqu'à 20h sur Europe 1. Et c'est déjà Noël dans le studio d'Europe 1. Branchez-vous vite sur Europe1.fr. Il y a de magnifiques bûches à découvrir.
Oh là là, c'est une splendeur. Je ne vous dis que ça. Venez regarder ce qui se passe chez nous parce que les papilles, là, vont en profiter. Mais les yeux, déjà, se régalent. Grâce à vous, Marion Sauveur, on accueille Jean-Christophe Buisson du Figaro Magazine. Salut à vous, Jean-Christophe.
Bonsoir, bonsoir.
Et Marion Sauveur, parce que vous êtes arrivé les bras chargés de gâteaux pour les fêtes. Les gâteaux, les bûches, magnifiques. Oh là là. C'est vraiment du travail d'orfèvre. Alors, donnez-nous la tendance cette année.
Alors la nouvelle tendance, ce sont les bûches véganes sans gluten. Et dans ce domaine, la maison Landman en propose une délicieuse 100% végétale, marron cassis, c'est parfaitement équilibré. Et puis on a la Végisserie qui propose elle aussi sa bûche végane, mais bio. On est dans la gourmandise avec une bûche à la noisette et au cœur au chocolat. Or, il n'y a pas que du végane, hein. On a aussi de véritables œuvres d'art, l'avez dit. Comme celle de Vincent Guerlet à Nantes, une jolie boule de Noël à ouvrir pour découvrir un entremets noisette, chocolat, poire. Puis il y a Picard dans la catégorie mignonnerie avec leur fabuleux sapin à déclocher. On est dans la gourmandise des accords chocolat, vanille, amande caramélisée. Mon gros coup de cœur, c'est celle du pâtissier Yann Couvreur à Paris. Un renard au regard troublant sur une bûche très très réaliste. Et côté saveur, marron, noisette, caramel, elle est gourmande.
Oh, c'est beau.
Souhait.
C'est génial.
Et puis pour les amoureux de la vanille, comme moi, je vous conseille de foncer chez Philippe Conticini, sa bûche pure vanille est à tomber, un concentré de vanille que du
génial.
Goût et de la vraie vanille. Si vous souhaitez réaliser votre propre bûche à la maison, le pâtissier Christophe Michelac propose un coffret avec une véritable bûche roulée à finaliser chez soi. C'est au chocolat noir et à la passion.
Super,
pourquoi
super.
Pas
Attendez, il y a les bûches.
Oui.
Mais et si on veut pas de bûche?
Eh ben, alors, il y a d'autres gâteaux.
C'est vrai, je veux dire.
Il y a celui-ci
j'aurais
à côté d'Anissa. Regardez, un gâteau d'exception qui s'appelle Incandescence. C'est chez Fauchon.
J'allume,
avec une bougie en sucre soufflé. Et ça fait son effet. On est dans de nouvelles saveurs. Alors, il faut qu'elle y arrive. Avec des saveurs de banane flambée pour le gâteau. Et cette bougie, elle est en sucre soufflé. C'est vraiment magnifique. Alors, il faut le temps qu'elle s'allume.
On va pouvoir goûter ou pas?
Ben, bien sûr.
Oh là là.
Il y a un cake glacé à côté d'Anissa également, signé le roi des cakes, Nicolas Bernardet.
Ah,
ça y est. D'ailleurs, une glace
ça brûle.
Châtaigne, sorbet, poire classique, une dacquoise et une crème mascarpone. Oui, mais ces cakes sont vraiment délicieux. Et puis, il y a une pavlova ici, regardez.
Une valeur sûre.
Un gâteau composé d'une meringue légère, celle d'Hugo et Victor au marron.
J'ai mis une option,
avec cette chantilly à vanille, quelques marrons glacés
à droite, là,
tomber.
Comme ça, c'est voilà. Bon, alors attention, parce que quand même, il faut garder la ligne ou pas? On se le dit, il faut
garder pas pendant les fêtes,
je sais.
Mais elle est comme ça, si on veut se la jouer et qu'on veut faire plus léger.
Alors, deux alternatives, une corbeille de fruits givrée à poser au centre de table.
Beau.
Elle est signée Frutini Baemo. Les fruits sont garnis de sorbet 100% artisanaux à partir de la pulpe du fruit. Et puis, le chocolat, ça marche toujours. Alors, regardez, des petites figurines comme celle d'Edward, le chocolatier. Et c'est bon et c'est beau.
C'est beau, c'est magnifique. Franchement, on est extrêmement gâtés, Marion
Sauveur.
On goûte la
quête.
d'heure. Là. Et demain, à partir de 11h, avec Laurent Mariotte, à la table des Monts Vivants, c'est quoi? C'est les bûches aussi?
Ah non, c'est pas les bûches encore. Bon. Noël, ce sera la semaine prochaine chez nous.
Bon, alors, on adore, on va déguster. Je vous promets que j'essaierai de parler correctement sans... avec la bouche pleine. Alors, Jean-Christophe Buisson, même si je sais que vous avez mis une option vous aussi, parlez-nous d'abord de lecture, de sortie, de découverte, s'il vous plaît. Avec, avec quoi pour commencer?
Ce que vous voulez.
Ce que je... Alors, Emmanuel Pierra.
Emmanuel Pierra.
Que je salue d'ailleurs.
Mais bien sûr, qui écrit beaucoup, pas seulement des plaidoiries, il écrit beaucoup de livres. Et là, il a fait un livre absolument formidable, hein, qui fait partie de notre sélection de beaux livres de fin d'année, qui s'appelle Collection Collectionneur, où il a retrouvé des collectionneurs, ces gens qui sont atteints de cette maladie qu'on appelle la collectionnite, alors avec des photos de Guillaume Delobier. Donc il y a des collections qui sont assez classiques, comme l'art tribal. Lui-même collectionne des masques, entre autres d'art tribal, des animaux empaillés. Il y a un Anglais complètement taré qui a des animaux empaillés chez lui, plus 200 globes terrestres pour qu'on voit bien d'où ils viennent, des petites voitures, des choses plus classiques. Puis il y a des choses assez bizarres. Par exemple, une vieille anglaise qui collectionne les Royals. Les Royals, c'est tous les objets qui sont liés à la famille d'Angleterre. Elle en a 10 000. Alors ça va du mug à la tête d'oreiller en passant par les chaussettes. Vous avez aussi des collectionneurs de chaussures d'enfants, des chaussures de pipe à opium. Et puis vous avez le fameux Chalençon, vous savez, qui collectionne tous les objets liés à la famille impériale, à Napoléon. Alors lui, il a, je crois, 1200 objets liés à Napoléon, dont la Légion d'honneur de Napoléon. Et lui-même porte l'anneau du sacre de Napoléon. Ah ouais. Voilà, c'est un beau livre qui est avec des textes d'Emmanuel Pierrat.
On précise quand même qu'il est écrivain et avocat, hein, Emmanuel Pierrat.
C'est ça que je disais, qu'il plaide aussi quand même. Ouais, c'est son métier.
Non, mais faut le rappeler parce qu'il est étonnant.
Il
a une palette
incroyable.
Et je l'embrasse. Dans le Figaro Mag, vous êtes parti sur les traces de Pierre Soulages.
Mais oui, c'était
forcément.
Cet expo à Paris au Louvre, bien sûr, bien entendu, qu'il faut aller voir pour ses 100 ans. Je vous rappelle qu'il aura 100 ans dans quelques jours. Et puis, il ne faut pas oublier que Pierre Soulages, il est originaire d'Aveyron et qu'il a eu droit. Il est le seul au monde avec Salvador Dali à Figaro, à savoir un musée qui lui est consacré de son vivant, ce qui est quand même assez exceptionnel, qui est à Rodez, qui est une très belle ville que je vous conseille. Justement, au lieu de faire le Louvre, l'expo au Louvre, on est allé à Rodez et à Conques, où il a grandi en partie. Notamment, il dit partout qu'il a eu son émerveillement à l'âge de 12 ans en étant dans l'église abbatiale de Conques, dont il a fait une centaine de vitraux tout à fait liés à l'architecture de cette église, de ce monastère. Donc on vous emmène un petit peu dans l'Aveyron pour changer des embouteillages et des grèves.
Ça fait pas de mal.
Bonne idée.
On va terminer avec la une du Figaro Magazine demain. Si on arrêtait de se plaindre, tiens, un débat entre notre camarade Sonia Mabrouk d'Europe 1, l'interview politique le matin dans la matinale de Mathieu Béliard, François de Closet et Luc Ferry.
Et Luc Ferry, voilà, pour dire oui, effectivement. Il y a sûrement des gens qui ont des raisons de se plaindre, mais on a aussi plein de raisons de se réjouir d'être français, de vivre en France avec un système social qui n'est pas si infernal que ça. Et puis une beauté, une géographie, une histoire, une culture, une civilisation qui vaille le coup d'être rappelée et d'arrêter peut-être en permanence
la
de se dire qu'on est des victimes.
Passer
de
à la positive attitude.
Exactement,
alors.
Exactement, à la Raffarin, il y a 20 ans.
Jean-Pierre Raffarin, exactement, mais ça fonctionne encore. Et puis là, regardez, on est gâtés ou pas? On a des bûches sublimes,
oh
là c'est magnifique.
C'est ambiance bûche ma bûche.
Je vous le dis, Jean-Christophe, approchez-vous pour goûter. Merci Marion Sauveur, merci Jean-Christophe Buisson. Le Figaro Magazine, c'est la semaine prochaine qu'on vous retrouve ici même. Juste avant les fêtes. Émilie Mazoyer, pardonnez-moi.
Je suis désolée, mais je ne peux pas résister.
Non, mais vous gênez pas pour
ce
moi,
serait,
je vous en prie.
Ce serait un supplice de résister.
Vous êtes trompée de studio ce soir, Émilie.
Je me rends bien compte. Et alors, en plus, grâce à vous, j'ai la positive attitude de Laurie dans la tête jusqu'à demain matin.
Ah bah oui, ça peut être aussi Laurie.
Merci beaucoup. La positive attitude.
Ah bah chacun ses références. Hein.
C'est un tout petit peu compliqué, alors je vais essayer de faire passer le Laurie. Avec Vénus. Vénus vénère pas avec de la bûche, j'ai bien compris, mais avec Vénus Vénère, c'est une nouveauté, une découverte ce soir, c'est un duo français de la pop énervée.
Pas mal.
C'est très bien, ça accompagne très bien la bûche, moi je trouve. Cette...
Attention Anissa, je sais où t'habites.
Voilà, Vénus Vénère, c'est nos invités ce soir et j'espère qu'ils apporteront un petit truc à manger.
Mais nous, on vous en
sinon
amène.
On vous en garde.
On vous en amène.
Merci.
Merci, Vivi. Merci beaucoup. C'est incorrect. À souhait. Chers auditeurs, on s'excuse, mais on ne pouvait pas résister. On vous remercie de votre fidélité, en tout cas, et de gommer cet événement. Merci Marion Sauveur. 18h20 chaque soir, c'est en direct.
Oui, bien sûr.
Avec toute l'équipe, merci de votre fidélité. Anissa, à lundi.
À lundi, demain, Wendy Bouchard, à partir de 18h.
Absolument, et on reste ensemble chaque soir pour écouter Le Monde Changer.
C'était Nathalie Lévy, sur Europe 1. Europe 1.